En général, ça commence comme ça. Il était une fois dans une forêt sombre et profonde. En fait, il se passe quoi dans cette forêt sombre et profonde ? Il y a surtout la création de tout un imaginaire de la forêt qui n'est sans doute pas pour rien dans nos débats actuels. Lieu folklorique, lieu mythologique, sacré, la forêt s'est parée au fil du temps de significations multiples et d'une représentation bien ancrée. Des arbres, évidemment, en grand nombre, toujours, serrés, laissant ici ou là passer le soleil dans des clairières, des îlots de lumière, au milieu de la pénombre des futaies. C'est un peu le tableau romantique du XIXe siècle que vous pouvez tous avoir en tête. C'est un espace de marge, coupé du monde, habité, qui incarne une forme de sauvagerie propice à la magie comme à l'aventure. De la forêt de Blanche-Neige à celle de Miyazaki, pour ceux qui connaissent ce réalisateur de dessins animés, en passant évidemment par celle d'Astérix et celle d'Idéfix, qui, si vous vous rappelez bien, ne supporte pas qu'on coupe un arbre. La forêt semble être un espace de poétique anarchie qui correspond bien aussi au romantisme du XIXe siècle, tout aussi bien qu'aux besoins d'évasion et de retour à la nature de notre siècle, le XXIe siècle. Mais cette interprétation toute littéraire correspond-elle si bien à la réalité, celle d'hier comme celle d'aujourd'hui ? Et c'est évidemment ce qu'on va explorer ce soir. En votre compagnie et avec l'aide de nos experts, Vincent Joseph, qui est donc gestionnaire forestier, je vais les laisser parler après, vous inquiétez pas. Et trois membres de l'Université de Caen, Philippe Madeline, qui est géographe, Elisabeth Ridel-Granger, qui est ingénieure CNRS et historienne de la forêt normande, et Benjamin Telot, qui est géographe également, qui a fait son master au sein du laboratoire Espace et Société sur le thème des conflits d'usage de la forêt dans la Sarthe. On va aujourd'hui annexer la Sarthe, puisque c'est son travail d'étude. Avant donc de commencer et de rentrer dans le vif du sujet et donc de regarder cette forêt normande d'un peu plus près, est-ce que peut-être on peut se présenter davantage ? Alors, d'abord, Vincent, je ne suis pas sûre que le métier de gestionnaire forestier parle à tout le monde ici. Est-ce que tu peux en dire un petit mot, s'il te plaît ?
Oui. Bonsoir à tous. Donc, un gestionnaire forestier, c'est quelqu'un qui intervient essentiellement auprès des forêts privées. On a deux grandes familles de gestionnaires forestiers, l'ONF, Office national des forêts, pour les forêts publiques et les forêts des collectivités. Et puis, la forêt privée, là, vous allez retrouver trois types d'intervenants, coopératives forestières, gestionnaires forestiers, experts forestiers et techniciens indépendants. Voilà, donc moi, je suis technicien indépendant. Et donc, je conseille les propriétaires forestiers sur toutes les opérations qu'ils vont mener de la graine, du terrain nu, parfois, hein, puisqu'on reboise aussi des terres agricoles, jusqu'à la commercialisation des bois. Voilà. Déontologiquement, il nous est interdit d'acheter le bois de nos clients. Voilà, donc on s'arrête à cette phase de commercialisation du bois brut au moment où il passe donc de l'amont de la filière à l'aval de la filière, donc vers les transformateurs, les scieurs. Voilà, nous sommes le lien.
Merci Vincent. Et puis pour présenter aussi rapidement peut-être le pôle rural, on ne va pas présenter le métier d'historien ni le métier de géographe, hein, on va passer sur ces sujets-là. Par contre, présenter le pôle rural, oui. Ça peut avoir un intérêt.
Alors en quelques mots, hein, c'est le pôle rural, hein, Pascal l'a un peu dit, hein, c'est une structure qui existe depuis la création de cette maison, depuis 1994, qui a été créée par un géographe, hein, Roger Calmès, qui était mon directeur de thèse, et Jean-Marc Morisseau, un historien connu. Et je co-dirige ce pôle avec Jean-Marc Morisseau depuis 1999, et puis avec Elisabeth depuis quelques mois. Et alors le pôle rural, il est caractérisé par plusieurs activités, un séminaire de formation et de recherche, hein, pour les doctorants, les masters et les collègues. On va avoir notre 200e séance le mois prochain, hein, depuis 1999, sans interruption. Un lieu de publication et de revue. Et les conférences depuis 2009 sont sur la forge numérique, hein, qui est un outil important. On peut réécouter les conférences, hein, des anciens chercheurs sur la forge numérique, hein, sur Internet. Un lieu de publication, ouvrage et revue. Un centre de documentation avec des thèses, hein, 900 thèses qui concernent le rural, et un centre de documentation pas forcément très connu mais important, c'est la bibliothèque ancienne du ministère de l'Agriculture, qui se situe dans cette maison. C'est à peu près 25 000 volumes, hein, du 18e siècle jusqu'à 2005. Et puis c'est aussi un lieu de recherche à travers des enquêtes. Il y a eu l'enquête Camembert, et aujourd'hui il y a une enquête qui s'appelle DAFNOR, dans et autour des forêts normandes.
Voilà, donc vous avez un petit peu de lecture, si vous voulez, si vous vous ennuyez un week-end, il y a 900 thèses sur la société rurale. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre aussi pour nous. Donc nous, on est une interprofession, hein, donc des entreprises. Et c'est vrai que ce dialogue peut être extrêmement riche. Pour commencer, je vais peut-être... Alors, on doit avoir des cartes. On a plein de cartes, forcément. Quand on fait, c'est ça qui est chouette, quand on fait des choses avec des historiens, des géographes, on a des cartes partout. Donc pour commencer, avant de plonger dans l'histoire de la forêt, juste un petit mot sur cette forêt normande aujourd'hui, à quoi elle ressemble. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, on a à peu près 14% du territoire qui est boisé avec des forêts. Je ne parle pas ici de ce qu'on appelle parfois la forêt linéaire, dont on est extrêmement riche, qui sont les haies du bocage. Donc ça, on exclut ça de la conversation ce soir. Ça fait à peu près 421 000 hectares de forêt en Normandie. On est bien moins boisé que beaucoup de nos voisins. La moyenne en France, c'est 30% de forêt. Et de quoi est faite cette forêt? Elle est faite d'arbres, essentiellement. Et en fait, on a la spécificité en Normandie d'avoir une forêt qui est faite à 88% de feuillus, c'est-à-dire essentiellement pour nous des chênes, 44%, et des hêtres, on est à 21%. Mais on a aussi des châtaigniers, des frênes, des merisiers, etc. Et on a aussi donc, un plus petit nombre de résineux, 12%, avec essentiellement des douglas, 43%, et des pins sylvestres, 21%. Et juste un dernier chiffre, pour ne pas vous assommer avec tout ça, on a une production annuelle qui est estimée à 2,7 millions de mètres cubes par an, pour un total de 81 millions de mètres cubes sur pied. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter un petit peu les choses. En gros, peut-être deux choses clés. Essentiellement des feuillus. Et l'autre point, c'est que, ce que je n'ai pas dit là, mais qu'on prélève à peu près la moitié de la croissance annuelle. Donc du petit truc en plus, on en prend la moitié. Voilà, ça c'est des chiffres clés. Est-ce que j'ai l'aval du professionnel? C'est bon. Et donc voilà, là c'est la forêt telle qu'elle est aujourd'hui. Vous la voyez répartie sur le territoire ici. Est-ce que, Elisabeth, est-ce que vous reconnaissez dans cette forêt celle que vous avez étudiée et comment donc cette forêt elle a évolué avec le temps?
Alors, on a pris au sein du pôle rural, hein, donc on s'est lancé sur un projet donc d'AFNOR, comme disait Philippe, hein, dans et autour des forêts normandes, et on a pris le parti d'étudier une seule forêt. Ça peut pouvoir être réducteur, mais ça nous a permis de la suivre depuis les ducs de Normandie, hein, puisque toutes les forêts étaient ducales, appartenaient aux ducs de Normandie, et on l'a suivie jusqu'à nos jours. C'est la forêt domaniale de Cerisy. C'est vraiment c'est pas la plus grande, hein, mais il n'y avait pas très peu de travaux faits en histoire. Alors, j'en viens à la question d'Anne-Sara. La forêt au Moyen-Âge n'est pas du tout celle que nous avons sous nos yeux. Pas du tout. Hein, on n'a pas la forêt est multiforme, elle était beaucoup plus variée que ce qu'on a maintenant. Hein, la forêt, la hêtraie de Cerisy, hein, être majoritaire à plus de 70%. Et au Moyen-Âge, en tout cas du temps du duc Guillaume, quand il chevauchait dans ces forêts, on a plutôt, si vous connaissez le New Forest en Angleterre, hein, c'est-à-dire un vaste territoire de chasse, parce qu'à l'origine c'est ça. Hein, le terme forêt s'appliquait d'abord à un territoire de chasse, une réserve de chasse. Et ce territoire était très varié. Vous aviez du taillis, des landes, des zones de landes, des zones de bruyères, de la haute futaie, de la moyenne, etc. Donc c'était beaucoup plus varié. Et si vous voulez voir une forêt, ce que pourrait être une forêt du Moyen-Âge, il faut traverser la Manche pour aller dans le New Forest. Alors notre forêt de Cerisy n'est que le vestige, en fait, hein, d'une immense forêt, ce qu'on appelle une forêt frontière, et qui s'appelait la haie, d'ailleurs. Hein, vous imaginez une énorme haie qui délimitait le bassin du Cotentin, à peu près. Alors, cette immense forêt s'est érodée au fil des siècles. Hein, par exemple, si vous allez du côté de 40 ans, des marais de 40 ans, enfin vers la BDV, la forêt de Neuilly, pour ceux qui connaissent, on appelle Neuilly la forêt, il n'y a plus de forêt, elle a disparu. Hein, défriché vraiment au XIXe siècle. Et puis, les forêts de chaque côté d'une rivière qui s'appelle la Drôme, hein, pas très loin de Bayeux, il faut imaginer un massif complet de chaque côté, et il n'y a pas de nom. C'était une forêt de chaque côté de la Drôme. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est réduit, hein, au point que ne reste plus maintenant que le plus beau massif, la forêt de Cerisy, et puis des petits bois plus rabougris, plus éparpillés, les bois du Tronquet, les bois du Vernet. Ce sont d'anciennes forêts ducales. Hein, on les appelait les forêts du Vernet, les forêts du Tronquet. Et elles se sont mitées au fil des siècles. Alors ça, c'est pas fait en un siècle. Souvent, c'est assez long. Ça s'étend vraiment du XIe siècle. Et il y a encore même certains défrichements qui s'opèrent au XIXe siècle sur des forêts privées, par exemple. Et du coup, on a un paysage forestier qui a disparu. Alors que la Normandie, en 1376, une ordonnance royale de 1376 décrit le pays ou duché de Normandie comme l'un des plus boisés du royaume de France. Donc on n'imagine plus maintenant. Hein, c'est pour vous dire l'évolution qui s'est faite, on va dire, en 1000 ans d'histoire.
Juste pour compléter, qu'est-ce qu'on en a fait de ce bois sur ces 1000 ans d'histoire ?
Alors, ce sont les usages qu'il y a eu sur les forêts médiévales. On n'avait pas du tout... Là, on a une idée de se promener en forêt. La forêt, elle est vue maintenant comme une forêt promenade. Mais il faut savoir qu'au Moyen-Âge, la forêt, elle est tout. C'est une forêt matérielle. On va y chercher, bien sûr, le bois pour se chauffer. On va y chercher aussi du bois pour construire. Il faut savoir, par exemple, à Bayeux, il y a eu à un moment, au XIIIe siècle, une grande période d'urbanisme. On a construit la partie gothique de la cathédrale. La forêt la plus proche, c'est cette forêt, ce vestige de la forêt de cerisier qu'on appelait la forêt de Bure. Donc, en fait, on a pioché là. Donc, il y a la construction sur de grands édifices. L'abbaye de Cerisy, pour ceux qui connaissent, elle a probablement été faite quand même avec du bois de la forêt de Cerisy. Et puis, les usages locaux. Il y a beaucoup de monde. Il y avait du monde en forêt. Donc, en fait, il n'y a pas seulement les hommes qui s'en vont chercher le bois pour se chauffer. Il y avait aussi les animaux. Le panage, le porc, ça, c'est connu. Mais ce qui est moins connu, c'est aussi des brebis, des chevaux. Donc, on imagine tout ce monde. La forêt, elle est piétinée. Elle est piétinée. Limite, on dit même elle est jardinée presque, quelquefois. Et donc, tout ça fait que les arbres n'ont pas toujours le temps de repousser. Alors, il y a des forêts... Dans cette forêt-là en particulier, au Moyen-Âge, on n'imagine pas de grandes périodes de chasse. Ça, c'est un cliché. On a tous en vue le seigneur qui s'en va chasser. Pas forcément. Ça dépend si la forêt est plutôt pour la chasse ou pour la production. Donc, cette forêt de cerisier était plutôt pour la production. Et puis, il y a aussi, des fois, la marine royale, qui d'un coup, par exemple, dans les bois où il y avait ce qu'on appelle des quarts de réserve, tout d'un coup, ils allaient faucher plusieurs chênes. On a un très bon exemple au début du XVIIIe siècle, 3700 chênes abattus dans le bois Labbé, une partie de la forêt de Cerisy. C'est vrai que ça devait faire de l'effet, ça devait se voir à cette époque. Ça ne choquait personne, c'était normal. La forêt était multifonctionnelle, on l'utilisait au maximum, mais parfois trop peut-être, bien sûr.
Je vous laisse réagir les uns et les autres, je ne veux pas vous brimer. Vincent, on avait évoqué aussi ces restes de forêts anciennes, plutôt dans la Manche.
Ah oui, on peut la montrer, la forêt de Brie. Oui, je continue sur la forêt. J'ai parlé de cette forêt du côté de Bayeux, forêt de Bure, qui s'est émiettée. Mais le plus bel exemple, c'est la forêt de Brie du Cotentin. Vous imaginez une forêt qui couvrait quasiment tout le Cotentin. Et là, vous avez des vestiges. On a encore une cartographie, donc c'est la carte à droite, là. On a encore quelques forêts. C'est les vestiges de la forêt de Brie. En fait, elle a été complètement émiettée au fil des siècles. Alors, tout. Il y a eu la verrerie, il y a eu la marine et les usages locaux, en lisière surtout. On a du mal à penser, les paysans aussi, en lisière de forêt, qui vont... Parfois, il y a des scandales aussi. On a trouvé un scandale comme ça à Bayeux. Il y a eu un procès retentissant à la veille de la Révolution. Il y avait une telle connivence entre les usagers et les officiers royaux qu'en fait, il y avait des délits, ce qu'on appelle forestiers. Et donc, la forêt de Cerisy, pour revenir à celle-ci, on parle d'une petite ville dans la forêt. Une petite ville dans la forêt. Donc, imaginez dans quel état pouvait être la forêt à peu près à cette époque-là. Il y a une carte Alfara, je crois que c'est la suivante. Donc c'est du monde. Il y a du monde dans la forêt. Il y a les gens autour de la forêt. C'est une économie très importante dans les siècles passés. Peut-être plus variée, j'allais dire, puisque sabotiers, les charbonniers, plus tous ceux qui vont faire paître leurs troupeaux. Il y a les ventiers, ce qu'on appelle les marchands de bois. Plus les coupes illicites, ça fait beaucoup de monde en forêt. Là, la forêt actuelle. Alors là, je cherche ma carte du XVIIIe siècle. Il faut remonter Pas trop. Hop, hop. Voilà, merci. Là, c'est une carte assez exceptionnelle. Il y a assez peu de cartes de cette forêt de cerisiers. Pour ceux qui la connaissent, il manque un morceau. C'est la partie qui appartient aux abbés. Il manque ce qu'on appelle la queue de la forêt. Ça s'appelait le bois de la queue avant Moyen-Âge. Et donc, vous voyez bien hein, les zones très clairsemées hein, sur cette carte, voire une zone qui s'appelle le défrichement. Hein, donc, en fait, très peu de hautes futaies, en fait. Je pense que quand on la voit maintenant, on se dit qu'elle vient de loin. Parce qu'au début du 19e, effectivement, la forêt n'est pas du tout en bon état. Hein. Et c'est qu'en 1844, il va y avoir, en plus, la sylviculture devient plus scientifique. Hein. Il va y avoir un grand plan sur la forêt de cerisier et autres. Hein. Nous, on a pris une forêt parmi d'autres, mais au moins, on a pu bien la connaître et la suivre. Mais certainement, il y a d'autres forêts dans ce cas-là. Hein. La forêt de Brie n'a pas eu cette chance. Alors, on le sait pourquoi. Elle était tellement abîmée que ça ne valait pas la peine de la sauver. Voilà. Et là, il ne reste plus que des petits bois. Hein, qui sont privés. Hein, il y a une forêt domaniale, la forêt Saint-Sauveur. Mmh. Voilà, peut-être en parler.
Voilà, alors si on peut revenir sur la carte, voilà, celle-ci. Alors vous voyez la région Sauce-Ménil, Saint-Germain-Tournebus sur la côte est du Cotentin. Ben, dans ces endroits-là, c'est un des hauts lieux d'une de nos occupations, qui est le boisement de terres agricoles. On a eu effectivement toute une période de défrichement en forêt qui s'est poursuivie dans le Cotentin jusqu'avant-guerre, voire même un petit peu après-guerre. Et on a laissé la forêt aux endroits les plus pauvres. C'est-à-dire qu'en fait, on défrichait pour l'usage agricole. Et à un moment, on s'arrêtait parce que là, ça valait plus le coup. Voilà. Les terrains arrivaient aux extrêmes secs ou aux extrêmes humides ou aux reliefs trop prononcés, n'en étaient pas exploitables. La forêt est restée à ces endroits-là. Et donc, de mitage en mitage, on est arrivé à ce résultat. Et aujourd'hui, on a une déprise agricole. C'est-à-dire que de plus en plus de terrains, un peu moins aux extrêmes, deviennent peu exploitables. C'est le cas des prairies de fond de vallée. Voilà, on ne peut pas les mécaniser. Donc, on revient vers la forêt et on nous demande aujourd'hui de replanter. Voilà, des zones qui ont été défrichées parfois il y a juste un siècle, ce qui est finalement peu de temps. Cette dynamique, elle est extrêmement importante à comprendre. Il y a une vraie appétence aujourd'hui pour la forêt que l'on retrouve. Tout le monde a envie de forêt, tout le monde a envie de faire son petit coin de forêt, tout le monde a envie de planter. Voilà, c'est notre mouvement sociétal d'aujourd'hui, cette forêt, alors que la forêt, avant, c'était un petit peu la zone laissée à la nature, c'était un peu l'échec. Et aujourd'hui, on voudrait reprendre, en fait, ces zones-là. C'est assez... assez intéressant comme dynamique. Et donc, le Cotentin est un des endroits où se déroule le plus de ces boisements. Pour l'essentiel, en feuillu, toujours. C'est nos clients nous demandent plutôt une forêt agrément, plutôt une forêt paysage, une forêt chasse aussi. Hein, c'est une grosse motivation, la chasse. Mais aujourd'hui, on est sur un rythme hein, de plusieurs centaines d'hectares annuels en boisement de terres agricoles, en reconquête de la forêt.
Alors justement, la transition est parfaite. Parce que depuis tout à l'heure, on voit bien que la forêt bouge. Jean-François de Caffarelli le disait tout à l'heure, il y a un siècle, c'était un vignoble sur sa forêt. Là, c'est ce que vous dites en fait aussi tous les deux. Philippe Madeline, est-ce qu'on peut dire que la forêt est vraiment un lieu sauvage et un lieu naturel ?
Peut-être avant cette question, je voudrais revenir sur la carte qui a été projetée, qui est celle de l'Atlas Eusée de 1875 au début, et qui montrait que la forêt française, hein, c'était à peu près c'était un peu plus de 8 millions d'hectares. C'est une des...
Oui.
C'est celle-ci, voilà. C'était 8 millions d'hectares. 1908, près de 10 millions d'hectares, soit 19% du territoire. Et aujourd'hui, c'est à peu près 31% du territoire avec 17 millions d'hectares. Donc il y a une dynamique hein, d'évolution positive hein, de ces espaces forestiers, notamment après 1947, hein, le Fonds forestier national qui agit beaucoup sur le reboisement. Et alors pour la Normandie, et à l'échelle nationale, c'est donc, comme on le disait, c'est une augmentation d'à peu près 90 000 hectares par an. Hein, c'est ce que donne l'IGN hein, comme ordre de grandeur. Et ce qui confirme ce que vous dites, hein, il y a une évolution importante de l'espace boisé. À l'échelle de l'espace métropolitain, la Normandie, si on peut aller sur la carte d'après, eh bien, la Normandie est un espace, encore après, je crois, est un espace peu boisé à l'échelle nationale. Hein, 14% du territoire, ça a été marqué, un 17e rang des régions françaises, hein, loin derrière l'Auvergne, Rhône-Alpes, hein, 37% du territoire. La Normandie, seulement 400 000 hectares, avec 24% de forêts publiques, hein, et en majorité domaniales. Alors, la forêt sauvage, ou un lieu de naturel, bon, quand on parle de forêt sauvage, hein, on fait référence, hein, pour les spécialistes, à la forêt primaire. Et la forêt primaire, hein, elle ne couvre aujourd'hui plus qu'environ 10% de la planète. Une partie en France, un petit peu en Nouvelle-Calédonie, mais surtout beaucoup en Guyane. Hein, c'est là où on peut encore trouver la forêt primaire. Il n'y a plus de forêt primaire, de forêt naturelle en France métropolitaine, hein, depuis longtemps. On parle ici de forêt secondaire ou de forêt plantée, c'est-à-dire façonnée par l'homme. Alors pourquoi est-ce qu'on associe encore aujourd'hui forêt au sauvage et à la nature ? Je pense que dans un contexte d'essor de l'urbanisation, dans un contexte d'artificialisation des espaces qui s'est accéléré, hein, depuis la Deuxième Guerre mondiale, et à côté des espaces utilisés par l'agriculture, eh bien, les espaces forestiers apparaissent, hein, comme des espaces où la vie sauvage, c'est-à-dire la faune comme la flore, eh bien, est encore à l'état de nature. C'est pour ça que je crois qu'il y a des espaces forestiers, que les espaces forestiers sont assimilés dans les représentations à des formes de sanctuaires, hein, qui seraient en dehors des activités et des aménagements. Il n'en est évidemment rien. Mais le fait que la marque de l'homme y soit moindre, que des formes de protection y sont de plus en plus nombreuses, eh bien, les forêts peuvent effectivement apparaître, hein, comme des lieux de préservation d'une vie naturelle plus forte que dans les autres espaces.
Et alors, donc, justement, aujourd'hui, pour faire le lien avec cette biodiversité que vous évoquez, on va souvent parler de la place de la forêt dans la lutte contre le changement climatique. Alors, je vais tout de suite faire un petit point. On ne va pas parler beaucoup de changement climatique ce soir, pas plus qu'on va beaucoup parler de chasse. C'est des sujets qui sont l'un et l'autre très liés à la forêt, mais il faudrait pour l'un et pour l'autre au moins une soirée chacun. Donc voilà, on va essayer de se concentrer aujourd'hui sur l'histoire de la forêt. Puis si vous votez tous pour ça, à la fin, on refera d'autres soirées sur ces autres sujets-là. Mais en tout cas, il y a quand même un point qu'on peut aborder. C'est en quoi est-ce qu'aujourd'hui, cette forêt, elle est importante pour la planète et sur ses externalités positives. Et je voudrais qu'on en parle un petit peu parce que ça a évidemment un rôle sur la manière dont on considère la forêt aujourd'hui. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous...
Sur les externalités positives de la forêt, elles sont nombreuses. Et effectivement, il y a cette externalité du cadre de vie, de l'endroit où on va décompresser un petit peu, se promener. Voilà, moi, c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Et moi, si je suis arrivé à la forêt tout petit et par vocation, c'est parce que j'ai commencé par ce même regard. Et c'est ensuite ma formation, mon métier qui m'a appris à compléter ce regard, à voir autre chose que ces vastes étendues magnifiques, au demeurant, que j'avais sous les yeux. Et aujourd'hui, j'en suis à un stade où je prends conscience de mon impact, de l'impact de mon métier, de l'impact de mon travail sur ce milieu-là. Et donc, je comprends que le public se pose des questions. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, ce soir. Et je pense qu'on est maintenant de plus en plus nombreux chez les forestiers à s'ouvrir, à vouloir expliquer ce qu'on fait, à savoir aussi, et ça c'est mon avis très personnel, à devoir assumer nos pratiques, les faire évoluer, probablement. Voilà, on n'entendait pas parler de forêt avant, on était vraiment, nous les forestiers, tout seuls, un petit peu dans notre coin, quelques promeneurs de temps en temps, mais on n'était pas questionnés, beaucoup moins que l'agriculture, beaucoup moins que d'autres milieux, et là, brutalement, et nous n'y sommes pas vraiment préparés, on nous pose beaucoup de questions. Et donc, c'est une découverte que de devoir s'ouvrir pour nous, pour Fibois aussi. Je n'ai pas à souvenir qu'on ait eu vraiment de grandes ouvertures précédemment vers le public pour expliquer, répondre à nos questions. Ce qui ne veut pas dire que le sylviculteur doit se revendiquer le seul usager. Voilà. La forêt, c'est un milieu, c'est un écosystème complexe, varié. La sylviculture, c'est son petit pan de production. La sylviculture, c'est la production de la forêt, la production de bois. Voilà. Mais c'est une composante, ça n'est pas un tout. Et donc, évidemment, il y a des visions scientifiques. Il y avait des travaux, je crois, à l'université de Caen, d'un géographe, biogéographe, c'est biographe, comme ça. Voilà,
Gérard Houzard.
Voilà, Gérard Houzard, voilà, qui travaillait sur la forêt. Et aujourd'hui, l'enjeu est de revenir à cette interdisciplinarité. Voilà, que la forêt ne soit pas le seul regard des sylviculteurs ou le seul regard du public profane, mais qu'on vienne y amener de la technicité. Il y a des étudiants dans la salle. Moi, j'appelle vraiment à ce qu'on ait une multidisciplinarité. Il nous faut des biologistes en forêt. Il nous faut évidemment des gens qui s'occupent de matériel, des gens qui s'occupent de forêt. Ça, on sait relativement faire. Mais il nous faut aussi des compétences scientifiques. Voilà. Il nous faut des compétences sociologiques. Parce qu'il faut qu'on puisse se comprendre. Il faut qu'on puisse décoder un petit peu nos interactions. Voilà. Donc, les fonctions de la forêt, elles sont extrêmement nombreuses, je ne sais pas comment on a appelé ça, des externalités positives, voilà. Elles sont extrêmement nombreuses, effectivement, sur la qualité de l'air, effectivement, sur les espèces. Voilà, c'est un lieu qui est certes anthropomorphisé depuis longtemps, hein, la main de l'homme y a mis les pieds, mais c'est un des moins anthropomorphisés. Voilà, par rapport au milieu agricole, au milieu urbain, au tissu industriel, etc., c'est encore, avec la mer, celui où on a le moins d'impact régulier. En fait, on n'y est pas souvent en forêt. On n'y est pas souvent. On ne laboure pas tous les ans notre forêt. Voilà.
Et alors, pour autant, peut-être aussi pour répondre à une question qu'on voit apparaître parfois de manière sous-jacente, est-ce qu'aujourd'hui, on a un risque de déforestation en Normandie ?
Alors, un risque de déforestation, non. Absolument pas, c'est même tout l'inverse, si on parle vraiment en superficie couverte. Un risque de malforestation, peut-être, si on considère la malforestation comme étant le regard des autres sur ce que nous faisons, nous. Voilà. Je ne sais pas aujourd'hui définir la malforestation. Je ne sais même pas définir la forêt, moi, aujourd'hui. Est-ce qu'on appelle forêt, il y a une question, est-ce qu'on appelle forêt une étendue plantée d'arbres en ligne ? Est-ce que ça s'appelle une forêt ou est-ce que c'est une plantation ? Vous voyez, il y a plein de questionnements. C'est un début. Nos sociétés ont la fâcheuse habitude ces derniers temps de beaucoup se polariser, de beaucoup s'affronter. Et là, les camps sont en train de s'établir. Voilà, et de se retrancher derrière des palissades en bois, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se tend un peu, oui.
Justement, Benjamin, vous avez étudié ces questions-là, ces questions de conflits d'usage dans les forêts. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe un conflit d'usage entre le rôle environnemental de la forêt et le fait, justement, comme l'exprimait Vincent à l'instant, de couper du bois ?
Ben, en fait, on a plus un conflit au-delà du conflit d'usage, on a plus un conflit de vision entre la sylviculture et la vision qu'en ont les populations en général. Ce qui est beaucoup revenu dans mon travail, c'est que les populations que j'ai interrogées, elles trouvent la forêt considèrent la forêt comme un milieu agréable, reposant, naturel et protégé, ce qui pourtant n'est pas tout parfaitement le cas. Elles ont conscience que la forêt est quelque chose de géré et avec beaucoup d'actions de l'homme, mais ils ont toujours cette vision d'un milieu naturel qui est immuable, qui n'a pas changé depuis des années, qui ne doit pas changer dans les années à venir. Il y a aussi la question du temps long, en fait, que les gens ont du mal à se représenter. La forêt, c'est quelque chose qui vit sur... un arbre, ça vit sur plusieurs siècles. Et à l'échelle d'une vie humaine, les gens n'ont pas conscience que l'arbre, il vieillit aussi, en fait, qu'il va finir par mourir comme n'importe quel être vivant. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est lié à certaines populations, comme on pourrait penser à des citadins ou ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi auprès des populations de milieux ruraux, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, le milieu d'où elles viennent ou leur expérience de vie du milieu rural. Et une dernière chose qui est intéressante, c'est que ce conflit de vision, il est plus important chez les jeunes. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et ce qu'on peut se poser, c'est la question de la sensibilisation en fait, des jeunes générations aux questions environnementales et peut-être à une vision un peu trop manichéenne qui est faite dans cette sensibilisation, en gardant, voulant garder la forêt comme un espace naturel et pas de, où l'homme n'intervient pas du tout.
Donc en fait, il faudrait tous les inviter à venir à ce genre de soirée. Hein.
C'est ça.
Est-ce que, juste une petite parenthèse là-dessus, mais est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux ont un rôle, jouent un rôle justement dans cette polarisation ?
J'avoue ne pas m'être du tout penché sur cette question-là. Je ne pourrais pas y répondre objectivement.
Alors moi j'ai une petite veille curieuse des réseaux sociaux sur la forêt et de voir un peu ce qui s'y dit. Alors effectivement, il y a toujours... Il y a des militants qui utilisent, voilà, qui ont une âme de militant et qui utilisent ce militantisme pour aiguillonner un petit peu sur les réseaux sociaux et qui le font aussi à visage découvert. C'est pas ça le souci. Il y a de l'autre côté des forestiers qui, encore une fois, veulent dire la forêt, c'est nous. C'est les sylviculteurs. Non, pas que les sylviculteurs. Voilà. C'est aussi un milieu. Donc on a aussi des gens, des scientifiques, des gens qui on a un livre blanc qui est sorti il y a pas très longtemps d'éminents botanistes sur l'introduction des essences exotiques en forêt, voilà, qui a fait couler beaucoup d'encre dans notre petit landerneau forestier. Mais moi je trouve que c'est très bien que des scientifiques prennent des positions. Voilà, c'est très récent sur la forêt. C'est un milieu finalement assez peu étudié. Je ne sais pas si vous avez de longs dans vos recherches, si vous avez retrouvé énormément de bibliographies sur la forêt. Et...
Alors, Philippe, mentionnait Gérard Houzard, mais il y a Arlette Laplace de Londe qui a beaucoup travaillé sur la forêt de cerisier. On doit la retrouver, c'est une biogéographe. Mais c'est sûr qu'on a eu du mal, nous, en tout cas sur la forêt qu'on a étudiée, on n'a quasiment pas de bibliographie. On a eu beaucoup de mal à trouver quelque chose, hein, sur le plan histoire en tout cas. Il n'y a pas assez de choses. Hein, en particulier sur la Normandie, ce qui a pas mal joué aussi, c'est le bois de marine, certainement. Hein, on est quand même une région au bord de mer. Ça a dû jouer un rôle important. On n'arrive pas encore à le mesurer. Ça n'a pas été étudié ni par les maritimistes ni par les ruralistes. Je voulais juste me permettre de rebondir sur ce que dit Benjamin. La vision qu'on a, et parfois je me dis, mais il me semble que nous, Français, on aime l'histoire. Tout le monde regarde Secret d'Histoire, n'est-ce pas? Ce soir à 9h, vous avez un très bon Secret d'Histoire. Mais je plaisante, mais je trouve qu'on est devenu de piètres historiens. Je trouve qu'on a perdu cette dimension historique, alors que normalement, on est un pays où on est censé aimer l'histoire, et je trouve qu'on a de moins en moins ce recul de l'histoire. Et le recul de l'histoire, c'est bien, ça nous permet de voir les choses différemment. Je reviens sur la forêt qui n'est pas naturelle. Je vais vous emmener au XIe siècle. Ce problème, c'est que maintenant, on ne sait plus ce que ça veut dire être au XIe siècle. C'était il y a 1000 ans. Nous, historiens, on arrive très vite à ce projet. De moins en moins, les gens se projettent. C'est très court. On est sur le temps présent. Je pense que c'est dû aux ordinateurs. C'est dû au téléphone portable. On est dans l'instant immédiat, toujours un peu dans le futur. Alors, tout passe très vite. Hein, donc 1000 ans, voilà, il s'est passé beaucoup de temps. Donc il y a 1000 ans, la forêt de cerisier s'appelait aussi forêt de Montfiquet. Et Montfiquet, c'est le mont Fiché, ça veut dire en ancien français qu'on a replanté. Donc il faut imaginer des jeunes plants là, dans cette forêt, sur la partie la plus élevée de la forêt. Donc on n'imagine plus du tout ça. Ça veut dire toujours une forêt mouvante. Ce que disent tous les historiens de la forêt au Moyen-Âge, elle est mouvante tout le temps, mais tout le temps jusqu'à maintenant. C'est maintenant qu'on refuse. Le fait que ça bouge. Le paysage, on a tendance, c'est-à-dire, plus on est plus dans la nature, plus on est avec nos écrans, et plus finalement on exige que le paysage ne bouge plus. Or, il a toujours bougé. Depuis le néolithique, il bouge. Ça, tout le monde le sait, tous les archéologues vont le dire. Et la forêt, c'est la même chose.
On avait parlé, quand on avait préparé cette rencontre, de conflit de paysage plutôt que de conflit environnemental. J'avais gardé cette...
Oui, parce que l'environnement, c'est vraiment un mot... vraiment fourre-tout. Ce qui choque aujourd'hui et ce qui fait le support des réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit, c'est le choc des couperas, ce qu'on peut complètement comprendre. Voilà, il est pas, on peut discuter de leur légitimité, bien sûr, mais avant tout, c'est un choc visuel. Ça, c'est peut-être pas le plus important. Le plus important, c'est l'impact que l'on a sur les milieux au moment où on fait ces opérations, sur les techniques mises en œuvre. On peut très bien faire une coupe rase proprement et une éclaircie, c'est-à-dire juste prendre quelques arbres, on peut le faire comme un cochon. Mmh. Voilà. Donc ce n'est pas une question de la nature de l'intervention ou du paysage que l'on obtient qui est important. Ce qui est important, c'est l'impact sur le milieu. Et pour, connaître l'impact qu'on a sur un milieu, il faut connaître ce milieu. Ça vous paraît idiot, mais quand je vous dis qu'on a peu de connaissances sur les milieux forestiers, et donc peu de moyens simples pour nous de connaître notre impact. D'où la nécessité de l'interdisciplinarité qu'on essaye de mettre en place. Mais aujourd'hui, on recrute dans nos entreprises, on recrute des forestiers. On ne recrute pas de biologistes. Ça commence un tout petit peu. Voilà, dans les établissements publics, on va chercher des gens qui ont d'autres compétences. Mais la compétence milieu, voilà, cette lecture de l'endroit, celle-là, on ne l'a pas. Et si on veut répondre au public qui est alerté sur une question de paysage, paradoxalement, nous, il faut qu'on lui réponde milieu. L'enjeu pour nous est technique, finalement. L'idéologie, ça, c'est pas discutable. La vision que l'on a de la forêt, ce qu'on trouve beau, ce qu'on trouve moche, ce qui nous choque, on peut en discuter. On peut en discuter très longtemps, mais les débats idéologiques, on va voter bientôt. Vous voyez qu'ils n'ont pas été tranchés. Fort heureusement, on discute et on vote encore. Mais en forêt, c'est la même chose. Ces questions idéologiques ne sont pas tranchées. Ce sont des questions techniques auxquelles il faut répondre. Et pour ça, il faut effectivement qu'on puisse... accueillir des étudiants qui vont être formés différemment, des gens qui vont continuer à faire une formation sylvicole, mais avoir en parallèle une formation plus biologique au sens très très large, pour que l'on puisse regarder un petit peu mieux la forêt, la connaître un peu mieux.
Est-ce que Philippe, vous vouliez compléter?
Pour dire qu'effectivement, dans la discipline que je connais le mieux, la géographie, la forêt est un parent pauvre de la recherche. Il y a même aujourd'hui, vous avez parlé des biogéographes, ils sont vraiment de moins en moins nombreux. Alors que les ruralistes, c'est le groupe dans lequel je me reconnais, les géographes ruralistes ont beaucoup travaillé sur l'agriculture, mais très peu sur la sylviculture et sur la forêt en tant que telle. Donc... je pense que c'est quelque chose qui peut changer. Aujourd'hui, il y a des jeunes, des thèses qui sont en cours sur les forêts, sur tout un tas de questions. On va en reparler sur les communs, sur la gestion de la forêt, etc. Sur les essences, sur les choix qui doivent être faits pour maintenir ces espaces, etc. Qui soient à la fois espaces économiques et d'autres types de fonctions. Mais c'est quelque chose qui avait beaucoup chuté dans les recherches. Parce qu'il y a des spécialités de la géographie qui ont quasiment disparu, comme la biogéographie.
Alors, je vais parler pour l'histoire, du coup, parce que finalement, il y a un peu le même problème. Il y a peut-être plus de choses en histoire. Ce n'est pas toujours fédéré, en tout cas pas en Normandie. Et c'est surtout que les communications ont tendance à revenir toujours sur la même chose, les droits d'usage et les droits d'usage. Et les usages et les droits, etc. etc. Ça finit, je ne veux pas dire que c'est ennuyant, mais finalement, on n'avance pas. Donc, en fait, il faudrait plutôt que les historiens aient une vision géographique des choses et s'associent aussi avec les forestiers, les biologistes, essayer de cartographier. Alors, sur le Moyen-Âge, c'est presque impossible. On peut pas savoir. Mais sur déjà le XVIIe, on peut déjà entrevoir les essences. Voilà, on a des choses extraordinaires. Ça s'appelle les visites de forêt. Voilà, c'est pas un roman à lire. Ce sont des procès-verbaux. Sur les délits forestiers. Et là, on va avoir la taille d'une souche, d'un hêtre. J'en profite pour remercier mon collègue Michel Desflers qui a planché sur la transcription, parce que lire l'écriture du XVIIe ou XVIIIe, c'est pas toujours évident. Donc c'est lui qui a révélé tout ça. Et là, on découvre la forêt au XVIIe et XVIIIe. Et il faut pas s'arrêter là. Nous, on aimerait peut-être faire une carte, peut-être, on va dire, pas si précise que ce qu'on peut faire maintenant, mais c'est quand même possible d'essayer de remonter jusque-là, à condition de dépouiller le plus de documents possibles qui sont totalement inédits. Ce sont des documents qui sont aux archives nationales. Par exemple, il faut aller les chercher là-bas. Il faut avoir le bon paléographe. Vous n'allez pas le trouver tout de suite. Et après, essayer de cartographier, mais cette fois-ci avec des géographes, et puis voir avec les forestiers. Et là, on aurait une vision un petit peu sur la longue durée. C'est ce qui nous manque un petit peu encore. Mais on avance.
Et alors,
oui, alors, moi, je voulais revenir sur les propos de Philippe Madeline. C'est... alors, on a effectivement peu d'études sur la forêt, beaucoup plus sur l'agriculture. Et pourtant, ça couvre quand même 30% du territoire national. On parle quand même en millions d'hectares. C'est assez fou. C'est assez fou. Alors, on pourrait peut-être trouver une solution normande à ça. J'ai entendu qu'il y avait 500 doctorants, c'est ça ?
Dans toutes les disciplines.
Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un ou deux 500e de ces doctorants? Non, mais pourquoi pas commencer à essayer de faire des propositions? Fibois, je le redis, est l'interprofession, dont nous y retrouvons tous, de la graine à la planche. Et voilà, et donc pourquoi pas avoir que Fibois serve un peu d'accueil, voilà, et puis à quelqu'un qui pourrait entamer une étude relativement large. Bon, après il faudra resserrer, j'imagine bien, mais voilà, et ouvrir quelques sujets. Et est-ce qu'on a ici, par exemple, alors je ne demande pas de candidature, hein, mais dans la salle, est-ce que vous êtes parmi les étudiants qui sont là, est-ce qu'il y a des étudiants aujourd'hui qui envisagent de se diriger vers la forêt et sur quel type de formation, ça m'intéresse.
Il faut demander à Benjamin, parce que en 24 ans d'exercice, c'est le premier étudiant qui s'intéresse en Master 1 à la forêt. Donc il va pouvoir dire son...
C'est ça l'objectif. J'ai quand même une réflexion sur essayer de trouver un sujet de thèse et du coup ça implique un financement pour travailler sur des sujets de la forêt. Après, je ne saurais pas encore dire sur quelle partie précisément. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse, d'autant plus que je viens d'une formation, d'une licence en sciences de l'environnement. Donc j'ai ce double bagage géographie et biologie. Et c'est quelque chose, même en sciences de l'environnement, la forêt qui est assez peu travaillée ou travaillée vraiment que dans son coin. Donc c'est...
On fera les échanges. Hein, si j'ai vu qu'il y avait plusieurs étudiants, donc on prendra un verre après. Donc n'hésitez pas, à ce moment-là, on pourra discuter de tout ça et puis... On verra si Fibois peut abriter un cifre, peut-être, quelque chose comme ça. Voilà.
Mais c'est pas évident, comme dans une région comme la Normandie, qui est quand même des plus faiblement boisées, d'intéresser des étudiants à cet espace.
Oui, alors en même temps, on a aussi du mal à... Je fais une petite pub en passant pour tous les métiers du bois et de la forêt. On manque de charpentiers, de menuisiers, de bûcherons, etc. Donc finalement, tous les métiers qui touchent de près ou de loin, même à l'université, à la forêt, sont assez, assez sous-dotés. Je voudrais justement, puisqu'on parle de métiers, et qu'on reparte un petit peu dans le temps long et en arrière, parce que quand on parle aujourd'hui, justement, de métiers de la forêt, on pense bûcheron. Mais... Elisabeth, ça n'a pas toujours été le cas. Et comme tu l'as dit rapidement tout à l'heure, il y avait beaucoup de métiers. Est-ce que on peut rentrer dans le côté peut-être un peu folklorique, alors, anecdotique de ces métiers-là ?
Oui, alors les plus redoutés, ce sont les charbonniers. C'était les charbonniers. On a des attestations dès le 15e siècle, hein, au Moyen-Âge, mais peut-être avant, c'est parce qu'on manque de sources. Donc on a nos charbonniers. Alors eux, ils sont décrits, ils sont hirsutes, ils ont des yeux rouges. Enfin, c'est l'horreur absolue. Ils doivent faire peur à tout le monde. Et donc ils vivent quasiment... ce sont des gens un peu à demeure dans la forêt. Il y a donc nos charbonniers. Après, vers le XVIIe siècle, on trouve beaucoup de sabotiers, mais vraiment beaucoup. Ils ont des loges. Hein, les loges, c'est des petites cabanes en bois. Et ils font leurs sabots, même jusqu'au XIXe siècle, dans certaines forêts. Alors, peut-être pas en forêt de Cerisy, en tout cas, mais dans certaines forêts, voilà, ils ont leur loge. Alors, faudrait qu'on aille sur le fameux procès. Alors, il y a aussi, autour, hein, n'oubliez pas, Philippe et moi, on a tenu, c'est important, on n'a pas isolé la forêt de son terroir, de son territoire. Les forêts françaises, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais au bout du compte, chaque forêt est dans un territoire donné. Et ça, c'est important, ça veut dire autour de la forêt. Hein, nous, on sait que pour notre forêt de Cerisy, le bois servit à faire le boisage de la mine de Litry, par exemple. On a été recherché, il y a eu les forges du marquis de Balleroy. Il n'avait pas assez de bois, alors il a acheté, il a obtenu des bois à côté qu'il a complètement mité. C'est lui le responsable des mitages de la forêt. Vous pouvez faire un procès, on s'est un peu vieux. Hein, c'est lui qui est responsable du mitage des fameuses forêts à côté de celles de Cerisy, hein, qui sont plus que des petits bois. Pas forcément les plus beaux, hein, bois du Tronquet, du Vernet. Il a sans arrêt pompé sur ces bois-là pour alimenter ses forges. Voilà. Donc il y a ça. Hein. Et puis dans les métiers, tous nos marchands de bois, les charpentiers, menuisiers, on les voit pas bien. Un petit peu les tonneliers aussi. Donc ça fait beaucoup. Alors ceux qui sont le plus à demeure en forêt, il n'y a pas à dire, ce sont les sabotiers, les charbonniers. Alors je vous ai parlé, il y a le bois de marine, hein, je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Et puis il y aurait peut-être encore d'autres métiers, des vanniers aussi. Hein,
on parlait aussi de petits métiers, de ceux qui ramassaient les fougères.
Alors il y a les fougères, on les voit aussi sur des documents plus anciens. Le bois mort, ça j'en ai déjà parlé. Et puis, est-ce qu'on peut aller peut-être avant ou après pour montrer, voilà, hein, le scandale sur la forêt de Cerisy, hein, où on parle de 300 loges quasiment 3, il n'y avait pas 300 loges, mais 300 arpents complètement disparus pour faire... il y a une connivence là entre les usagers et les représentants du roi, ça je vous l'ai dit, c'est pour faire... l'ancien maire de Vaubadon est là, il n'est pas fier en fait. L'église a été faite sur un délit forestier, le château aussi, à l'époque, on pioche. Donc ils ont défriché quand même, coupé, l'un des plus beaux cantons de la forêt, déjà. Donc ça s'est fait au XVIIIe siècle. Et puis les loges, voilà. Hein, donc ça, l'expression, la forêt avait l'air moins d'une forêt, mais plutôt une petite ville. Quand vous voyez ça dans un document du XVIIIe, on n'en revient pas. Donc on est quand même très loin de ça maintenant. Hein. Voilà.
Alors, juste une incise littéraire, c'est pour ceux qui ont lu Le Baron Perché d'Italo Calvino, qui se passe en permanence dans les arbres. Il y a plusieurs scènes comme ça de forêt, donc plutôt au XIXe siècle, avec énormément de loges et de gens qui habitent.
Alors, voilà. Et là, si vous lisez le dernier paragraphe, ils ont même, comme ils étaient les marchands de bois, donc installés 7 à 8 ans, ils avaient installé leurs propres écuries. Donc vous imaginez tout ça en pleine forêt, bien sûr. Et puis un cabaret pendant qu'on y est. Donc on faisait, on pouvait boire un coup, on faisait la fête en forêt. Donc c'est incroyable, quoi. Hein, donc ça permet, voilà, l'apport de l'histoire est très important parce que je trouve qu'on relativise, on voit les choses autrement. Ça nous permet d'être moins excessifs certainement dans notre appréhension, pas que de la forêt, des paysages en général. Hein, et puis qu'est-ce qu'il y avait, les jeunes plants au lieu, alors les endroits qui devaient être replantés, bien sûr, en arbres. Eh ben qu'est-ce qu'on a fait? Hop, on a semé du lin. Donc ça c'est un procès. Tous les documents sont conservés aux archives départementales du Calvados. Encore faut-il aller les chercher. Là, je fais appel aux étudiants en histoire. Hein, et moi, je suis étonnée parce que ces documents-là n'ont jamais été dépouillés. Ils n'ont jamais été transcrits. Donc ça en dit long sur l'absence d'études quand même sur l'histoire de la forêt, en tout cas normande. Hein. Et c'est surtout pouvoir prendre une pile de documents et s'y donner à fond. Il faut s'y donner à fond.
C'est quand même ça le meilleur quand on fait des études d'histoire.
Alors,
hein, c'est d'aller fouiller
l'intérêt d'avoir pris qu'une forêt, c'est que nous, on essaie de faire ce qu'on appelle la biographie de notre forêt depuis l'XIe siècle, d'inventorier toutes les sources. Et à un moment, on pourra vraiment proposer des cartes, en savoir plus sur la... On a des trous, par exemple, sur la Renaissance. On a du mal à trouver un petit peu les sources. Qu'est-ce qui s'est passé vers les années 1500? On a du mal. Hein. Voilà. Donc, on va essayer de combler tous les trous. Et un jour, on vous fera un beau colloque sur le sujet.
J'en profite aussi, il y a, pour ceux que ces métiers de la forêt intéressent, il y a ce livre d'Alain Corbin, qui est donc aussi un historien extrêmement connu de la sensibilité, qui est normand, et qui a écrit ce livre sur, alors j'oublie toujours son nom,
Louis-François Pinago.
François Pinago, voilà, qui est saboté dans la forêt de Bellem. Voilà. Et ça permet de découvrir en partie ce qu'on pouvait faire dans ces forêts-là. On le voit bien, donc il y a beaucoup de gens qui se croisent en forêt. Est-ce que ça a donc toujours été le cas? Et surtout, puisque là, on a parlé un peu de ce lieu de production de la forêt, est-ce que la forêt, est-ce que ça fait longtemps que c'est un lieu récréatif, comme l'évoquait Vincent
Alors,
Joseph tout à l'heure?
Je ne vais pas me monopoliser la parole. Juste pour finir sur la partie histoire, à une époque, on a compris qu'il fallait spécialiser les forêts. On n'a pas ces idées de promenade, hein. La forêt, elle sert à quelque chose, mais il y a quand même l'idée de la forêt récréative, c'est pour la chasse. Même si on ne va pas parler que de ça, il faut quand même le dire. Et vers le XVIe siècle, et surtout XVIIe, au moment où la chasse à cour, hein, la vénerie se dote de rites où il y a des traités de vénerie, on spécialise les forêts. Donc il y a les forêts de production, où vous verrez plutôt des routes en damier. C'est le cas de la forêt de Cerisy, et des forêts de vénerie, ce qu'on appelle adaptées à la chasse à cour. Et là, vous avez les carrefours en étoile, les grandes allées pour que les chevaux puissent circuler. Donc, en fait, on a déjà... Alors, pour moi, la forêt de chasse à cour, c'est très récréatif. Hein. Ce n'est pas pour manger en soi. Les nobles doivent aller chasser, s'entraîner, etc. etc. Donc, il y a déjà une idée de la forêt récréative par la chasse hein, sous l'Ancien Régime. Et donc, à partir du XVIIe, vous avez ces forêts spécialisées pour la chasse à cour. Quand elles ont été défrichées, eh ben, il reste les carrefours en étoile. Ça, c'est assez amusant. Pour ceux qui connaîtraient le Bessin, allez sur l'ancienne forêt du Vernet, donc c'est tout près de Bayeux. Vous avez au moins 4-5 carrefours en étoile. Vous avez encore des allées cavalières et il n'y a plus de forêt. Ça reste dans les champs, mais c'est resté fossilisé. Ça, c'est assez étonnant à regarder. Voilà. Mais on n'a pas cette idée, sous l'Ancien Régime, de l'idée de promenade en forêt. La forêt est dangereuse, entre guillemets, aussi. Hein. N'oubliez pas, il y a quand même un loup qui rôde, malgré tout, n'oublions pas ça. hein, d'où le petit chaperon rouge, etc. Ensuite, s'il y a autant de monde dans la forêt, genre sabotiers, mais il y a aussi des maraudeurs, il y a aussi des cas d'attaques, de brigands, etc. C'est aussi un lieu de refuge, hein, la forêt. C'est pas forcément la forêt où on va se promener. Hein, c'est arrivé plus tard, certainement, cette idée de forêt promenade, entre guillemets.
Moi, j'aime beaucoup cette vision historique. Alors, on remonte pas si loin, hein, que l'11e siècle. Mais lorsqu'on travaille en forêt, on dresse des cartographies, on examine des peuplements, on les décrit. On a quand même tout un travail qui s'appelle un plan simple de gestion en forêt. Voilà, ça commence par un travail cartographique. On va décrire des futaies, des plantations, etc. et prévoir une gestion pour une période de 10 à 20 ans. C'est obligatoire pour les forêts de plus de 25 hectares. C'est volontaire pour les forêts de 10 à 25 hectares et ça prend un autre nom qui s'appelle le code de bonne pratique sylvicole pour les forêts de 4 à 10 hectares. Voilà. Donc tout ça c'est cadré. Tout ça c'est cadré par les pouvoirs publics. On a une loi forestière. La dernière date de 2001 et on a le successeur de l'ordonnance de Colbert sur laquelle vous reviendrez bien plus savamment que moi. Qui est le code forestier. Vous savez qu'il y a un code civil, un code rural, mais il y a aussi un code forestier, voilà, qui est à peu près aussi épais que les autres, à peu près aussi compliqué par moment, voilà. Et à l'intérieur de tout ça, la fonction entre guillemets récréative n'est prévue réellement, n'a son chapitre réellement que depuis la loi forestière de 2001. Ouais, c'est voilà. Ça. Avant, la forêt, y compris pour le législateur, c'est un espace de production. Ça remonte pour l'essentiel, donc vous avez cité la création du FFN en 1946 ou 47. Voilà, nous sommes dans l'après-guerre, le plan Marshall, le développement, il faut reconstruire. Pour ça, on a besoin de bois. J'espère, je vous coupe pas la. Non. Non, je me fiquais pas de développement sur la question après. Donc voilà, nous sommes après-guerre. La France est détruite, la Normandie en particulier, et il faut reconstruire. Il faut reconstruire. Et là, il faut du bois, voilà. Donc on entre dans ces périodes de programmation et en forêt, c'est un ministre de l'Agriculture qui s'appelle, en forêt privée en tout cas, c'est un ministre de l'Agriculture qui s'appelle Edgar Pisani qui va véritablement lancer l'organisation en forêt privée. Auparavant, il n'y a pas de notion véritablement de forêt privée, elle est balbutiante. Voilà, et c'est à ce moment-là que vont être créés les centres régionaux de la propriété forestière, que vont vraiment arriver les réglementations forestières. On est en forêt privée, mais on n'y fait pas ce qu'on veut. Voilà. Alors ça, on ne sait pas, on s'imagine en traversant la forêt que le propriétaire qui a coupé là l'a décidé tout seul. Non, 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 non. C'est extrêmement cadré. Voilà. Oui, vous avez.
Non, je voulais juste rebondir en disant que je vous présente tout d'un coup une forêt dégradée. Vous allez vous dire, c'est un peu le bordel en forêt. Excusez-moi de parler comme ça. Quoique bordel vient de board, hein, du mot cabane. Voyez, avant que ça dérive vers un sens particulier. Donc voilà, il y avait des bordels en forêt, tout simplement. Non, mais c'est pour dire que la législation, en fait, elle a toujours été. Depuis les forêts ducales, les forêts royales, il y a toujours une grosse. Même si ces forêts sont émiettées, il y a toujours une sévère réglementation parce qu'on savait que c'était fragile.
Alors justement, on peut peut-être juste dire un mot sur à qui appartient la forêt aujourd'hui, parce que vous l'avez abordé. Alors je ne sais pas si Philippe vous voulez.
Alors j'ai deux chiffres moi en tête dans la Manche et Calvados, on est à plus de 90% de forêts privées. Voilà. Donc alors je crois que sur la Normandie ça doit être 80%, il me semble, j'ai même peut-être ça quelque part. Voilà, je crois que c'est 75-80% de forêts privées. Donc sur les 420 000 hectares, il y en a 300 000 à peu près, 300-320 000, hein, je crois, de forêts privées. Donc c'est majoritairement privé. Donc l'enjeu réglementaire, il porte là-dessus. Voilà, pour décrire quand même, vous dire un petit peu comment c'est organisé. De l'ordonnance de Colbert, je passe très très vite parce que mes compétences historiennes sont limitées. Puis là, je suis très intimidé. mais on passe donc à une organisation relativement déconcentrée, Hein, vous avez la loi de décentralisation qui est passée par là, et c'est sous l'autorité préfet de région et de préfet de département, pour ce qui est de la représentation de l'État, que se trouve le cadre, l'application du cadre juridique, voilà, en forêt privée, au travers de ces plans simples de gestion. Et dans ces plans simples de gestion, pour essayer de faire des liens un peu, c'est pas évident, on peut faire des petits sauts de puce, quand on arrive en forêt, on cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'on a tel peuplement relativement pauvre, celui-ci relativement riche, qu'est-ce qui a pu se passer? Ben, on retrouve ces zones aplanies dans une pente. Vous avez une petite rupture comme ça, une zone aplanie. C'est les places de charbonnage. Moi, je retrouve encore des huttes en tôle, hein, de l'après-guerre, voilà. Vous retrouvez des vieux chemins qu'on n'utilise plus aujourd'hui parce qu'ils étaient faits pour les charrois d'antan, donc assez étroits. Donc parfois même ils nous embêtent parce que pour des plus gros engins, c'est pas.
Ils se développent, mais faut qu'on se rapproche des archéologues, une archéologie des forêts. Hein, donc ça, c'est intéressant parce que dans les forêts, souvent, ça, quand les forêts se féodalisent, oh lolo, peut-être qu'avec un. Ici, ça ira mieux, donc féodalise. Il faut imaginer, Calvados, carrément, il faut imaginer toutes les forêts, alors beaucoup plus touffues, qui appartiennent au duc de Normandie, hein, jusqu'en 1204, après les forêts de Verne Royal, mais ils commencent à offrir des forêts à leurs vassaux. Hein. C'est comme ça qu'après, effectivement, elles vont devenir du coup privées. Du coup, elles vont se fragiliser aussi. Finalement, les forêts domaniales, souvent, sont d'anciennes forêts royales, hein, tout simplement. Hein. Quand je dis tout simplement, avec beaucoup de guillemets, voilà. Et la législation, je reviens sur la législation. Dès les ducs, il y a une législation assez sévère, c'est-à-dire quand les ducs ont octroyé des forêts entières ou des morceaux de forêt pour des seigneuries émergentes, etc., etc., ils font peser un impôt très sévère, c'est-à-dire sur la transaction des bois, ils récupèrent 45% des transactions. Et en fait, ça limite finalement le fait que ça va partir justement en fagot. C'est pour limiter. En fait, on cherche quand même à protéger cette ressource depuis très longtemps, même si ça marche pas toujours, même si les forêts ont émité. Et c'est pareil pour le gibier. Hein, on va dire, oh, on interdit aux non-nobles de chasser. Alors évidemment, on en profite. Mais derrière cette restriction, c'est pour aussi protéger le gibier, tout simplement, parce que sinon, tout le monde va piller. Dans les forêts, y compris bois, y compris gibier. Et là, il n'y aurait rien si on en était arrivé là. Donc, en fait, la législation, le droit est très sévère depuis le Moyen-Âge.
Et alors, c'est quoi, justement, vous avez abordé plusieurs fois le Colbert qui a donc mis un peu d'ordre dans tout ça. C'est quoi, les grandes étapes de protection de la forêt?
C'est le premier code forestier. C'est le plus ancien... Ouais.
C'est une ordonnance parce que on a des enjeux à l'époque et notamment pour l'équipement de la marine de guerre Colbert en grand intendant qu'il est se dit probablement. Hein, je vais prendre la chose sous l'angle détendu. Hein, me prêtez pas de compétences historiques. On va faire un cours là-dessus, et je pourrais pas le faire de toute façon. Donc, et Colbert se pose un peu la question que nous posons tous, c'est de la durabilité de sa ressource. Voilà. Est-ce que le bois est un matériau durable, mais qui est long à produire, très très long à produire, et donc on va ainsi forger les hautes futaies que l'on retrouve encore aujourd'hui. C'est vraiment On se dit comment cultiver la forêt. Vous l'avez dit tout à l'heure, la forêt, elle est un peu plantée comme elle peut, hein, jusque-là. Et Colbert commence un peu à déposer ce que vont être les fondements de la sylviculture actuelle, où on va essayer de fabriquer de la futaie, de faire des arbres de telle manière, voilà, qu'ils aient telle forme, etc. Et ça,
c'est surtout qu'on va faire la chasse aux usages médiévaux. C'est-à-dire, avant, vous n'allez plus trouver de vaches qui va aller pète dans la forêt, oui, et moins de cochons. Et ça, ils ont restreint complètement ça.
Oui, mais on a aussi une dimension technique. On a aussi, c'est relativement rare, on a aussi les premières dimensions techniques. Comment faire de la sylviculture, finalement? Voilà. Et ça va se prolonger. C'est les fameuses eaux et forêts, hein, voilà. Et parmi lesquelles on trouve le verdier. Hein, qui a donné le nom à l'oiseau pour sa livrée qui s'inspire du costume du forestier de l'époque. Voilà. Et donc, on va petit à petit, comme ça, faire un grand saut jusque vraiment à l'après-guerre, où on a cette petite révolution qui sont les dispositions prises par Edgar Pisani, enfin proposées par Edgar Pisani à l'époque, et qui vont pour l'essentiel forger notre forêt d'aujourd'hui. Hein, c'est celle qu'on plante hein, depuis l'après-guerre. C'est une forêt qui poursuit un peu cette mode des années 60, vous savez, où on arrache aussi les talus, on fait toutes ces choses-là, voilà, on jette un peu le passé à la poubelle, c'est vraiment l'ère du modernisme, on vend les armoires normandes et on achète des buffets en formica, l'ancêtre d'IKEA, et à ce moment-là, la vision de la forêt devient de production, elle touche un peu au productivisme. Voilà. Et aujourd'hui, ce système-là se reproduit jusque dans les années 80, par exemple. Si un propriétaire forestier veut replanter et qu'il fait appel aux aides de l'État, donc du Fonds forestier national, les feuillus ne sont pas subventionnés. Ne sont subventionnés que les résineux. Voilà. Et c'est à ce moment-là que se lancent les grandes coupes rases, mais alors parfois sur des dizaines et des dizaines d'hectares, mais à l'époque, la société voit ça comme une marque positive du modernisme. Donc le problème qu'a la forêt, c'est que entre 1960 et 2022, 70, etc., on a 50, 60 ans, et que la forêt, elle ne peut pas réagir comme réagit par exemple l'agriculture qui peut passer au bio en 3 ans. Non, la forêt d'aujourd'hui, elle a une inertie qui est celle du temps, qui est colossale. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez planté, comme vous avez entendu parler des grands dépérissements d'épicéas communs dans l'est de la France, enfin j'imagine, voilà, ça, vous avez des espèces qui, une espèce de montagne qui a été introduite en plaine, voilà. Et puis aujourd'hui, le climat changeant, voilà. On a des ravageurs qui viennent taper violemment dans ces forêts. Comme on n'a qu'une seule espèce, boum, tout le monde saute. Il faut gérer ces forêts que l'on a plantées dans les années 60. Et en même temps, on y a eu une petite addiction, parce que ces forêts plantées bien droites, etc., étaient évidemment beaucoup plus facilement mécanisables. Et c'est là qu'on passe du bûcheron, du charbonnier, à la batteuse. Voilà, vous savez, ces machines, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça... Ces machines qui attrapent un tronc, qui vous le saucissonnent, ça prend 2 minutes. Le bûcheron avec la hache et le bûcheron avec la tronçonneuse, forcément, on les voit plus. Mais d'un autre côté, c'est un relatif progrès social, comme ça l'a été pour les agriculteurs, de passer de la faux au tracteur. Mais c'est aussi un progrès social et moins de peine et moins d'accidents pour le forestier de passer de la hache à la tronçonneuse et de la tronçonneuse à la batteuse. Et ça intéresse beaucoup plus les jeunes aujourd'hui de conduire une abatteuse. Mais une abatteuse, ça coûte 300 000 euros.
Pour compléter, on m'a dit que pour conduire une abatteuse, il y avait à peu près autant de paramètres que dans un avion de chasse.
Alors, c'est pas faux. L'avantage, c'est que c'est posé par terre. Mais par contre, évidemment, oui, c'est très compliqué. C'est des engagements financiers colossaux. Et là, la sylviculture rencontre un petit peu l'agriculture, aussi bien, je parle là dans les années 60, 80, elle rencontre un peu l'agriculture dans une... Ce qu'aujourd'hui on regarde avec un œil critique, mais qui à l'époque était le modernisme. Voilà. Et c'est fondamental parce que arrive là-dessus, dans les années 90, un choc énorme pour toute la France, tous les forestiers de France, la tempête de 99. Et là, on prend tous une grande claque. On prend tous une grande claque parce qu'on voit cette forêt qui nous paraissait aussi immuable à nous, hein. Forestiers, voilà, on avait planté ces arbres-là, on les regardait pousser, et voilà, et ils vont arriver, on va enfin avoir le résultat de notre travail, et là, badalam, voilà, une moitié de la France suivie de l'autre moitié. On parle là, dizaines de milliers d'hectares, c'est un choc pour tout le monde, c'est assez terrible. Et arrive là-dessus, donc la tempête de 99 arrive, on dit les résineux se sont cassés la figure plus que les feuillus, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est surtout que la tempête est arrivée au mois de décembre et que les résineux, bah, ils gardent leurs feuilles, on dit aiguilles, mais ce sont des feuilles, voilà, en hiver, et que les feuillus sont déplumés. Donc on a une profonde remise en question. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1900, jusque dans les années 80, si on voulait planter... on pouvait planter que du résineux si on voulait être financé. Dans les années 80, fin des années 80, années 90, arrivent les feuillus qui sont subventionnés aussi. Mais on peut toujours pas faire de mélange. On est toujours obligé, par les subventions, de planter quasiment une seule essence sur une parcelle donnée. On peut mélanger à l'échelle de la forêt, mais on a assez peu de facultés de faire des mélanges. Ces mélanges vont devenir systématiques après la tempête de 99, où on dit la forêt mélangée résiste mieux au vent. À cette époque-là, on parle même pas encore en forêt véritablement de changement climatique ou de choses comme ça. C'est anecdotique. On n'en parle pas beaucoup dans la société. On n'en parle pas beaucoup en forêt. Mais on dira, pour nous, ce qui nous marque à ce moment-là, c'est le vent. On a découvert un facteur, le vent. Depuis, on a eu la sécheresse de 2003, on a eu tout un tas de choses, donc on a redécouvert le vent, la sécheresse et toutes les calamités qui peuvent nous tomber sur la figure tous les quatre matins. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'incertitude, aussi bien sur nos méthodes que sur nos financements, sur notre... On se dit, mais faire des choses en forêt en sachant qu'il va se passer 50, 60, 100 ans, 150 ans avant qu'on puisse récolter ce qu'on a planté, c'est extrêmement inquiétant. Il faut avoir une sacrée motivation, une sacrée envie pour avancer malgré ça. Voilà. Mais j'en termine de cette histoire aujourd'hui, de ces différents faits. Bah, certains disent mais non, il faut en revenir, il faut qu'on produise du bois de manière rationnelle, donc il faut qu'on replante en ligne, il faut qu'on refasse des grandes superficies, etc., pour nourrir une industrie du bois, parce que tout le monde rêve d'avoir une maison en bois. La demande en bois, elle est colossale, mais colossale. Voilà, donc il faut arriver à la satisfaire, d'un côté, et d'un autre côté, il faut aussi satisfaire la même population qui veut avoir une maison en bois en termes de paysage. C'est un défi colossal.
On voit bien entre le productivisme des années 60... qui manifestement est accepté, et aujourd'hui où on entend assez vite parler des mots que j'ai employés en introduction, hein, d'écocide, ce genre de choses, cet activisme-là, quand est-ce qu'il naît et pourquoi ? Peut-être l'un de vous deux, les géographes.
J'avoue que sur l'activisme, je n'ai pas...
Non, mais dans le temps passé, alors c'est ça qu'on n'admet peut-être plus maintenant, c'est que comme la forêt est... une zone de promenade, ça c'est clair. Du coup, c'est plus un espace de production. Mais en fait, moi quand je remonte dans les temps, mais très lointains, hein, qui est toujours le Moyen-Âge, on façonnait la forêt pour nos besoins. Et on a toujours façonné la forêt pour les besoins de l'homme. Et c'est peut-être ça qu'on n'admet plus maintenant. Pourquoi ? Ça, moi j'y réponds pas. Hein, c'est pas à moi d'y répondre, faut qu'on réfléchisse. Mais ça a toujours été le cas. Et vous le voyez des fois dans les noms de lieux. C'est toujours intéressant, si vous promenez en France, hein, vous allez voir plusieurs forêts, la forêt du Troncé, nous on a le Tronqué. Hein, donc en fait, ça reflète une façon particulière de tailler les arbres. Ça veut dire la sylviculture, on ne l'a pas non plus inventée avec le code forestier en 1669. Même au Moyen-Âge, il y a déjà des sylviculteurs qui s'y connaissent certainement bien, mais parce qu'ils façonnent la forêt pour leurs besoins. Et pour à cette époque, ces forêts... qui s'appelle troncé, tronqué, tronquois, tous ces formes-là, ce sont des arbres émondés. C'est des trognes, comme on dit dans le Perche, des trognes. Donc des petits troncs d'arbres, des branches qui repoussent comme ça. C'était pour améliorer le pâturage en forêt. Donc ça veut dire qu'au Moyen-Âge, on spécialisait après tout déjà des forêts. Il y a une forêt du Tronqué à côté de la forêt de Cerisy. Maintenant, il n'y a plus les traces de ce pâturage, parce qu'entre-temps, la forêt a rechangé. Donc vous voyez un peu les changements qui peuvent être faits sur la longue durée. Hein, d'abord, une forêt qui a été taillée pour le pâturage à cette époque. Et c'était pour les besoins du Moyen-Âge, puisqu'il n'y a pas à dire, il fallait que nos bêtes aillent pâturer en forêt. Il y avait une notion de pâturage en forêt. Alors effectivement, après, on s'aperçoit que ça détruit quand même beaucoup la forêt. Et donc, on va restreindre ces droits médiévaux. Mais finalement, il n'y a pas si longtemps... Et je sais qu'il y a Vincent Cazin, un collègue bénévole qui a travaillé avec nous, qui a relevé dans les archives municipales de Montfiquet, il y avait encore, jusqu'au 19e siècle, il y avait encore un pâtre désigné pour aller emmener des bêtes en forêt. Donc on n'imagine plus ça maintenant. Donc tout ça pour dire qu'à toute époque, à toutes les époques, à tous les siècles, on a toujours façonné la forêt pour nos besoins. Et ce n'était pas pour se promener.
Aujourd'hui, peut-être... Bah, voilà.
La forêt promenade, je ne suis pas vraiment un spécialiste hein, d'histoire, même contemporaine, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on encourage les gens à. Dans les années 1930, hein, il y a déjà des. La forêt de Cerisy, elle est déjà utilisée par des promeneurs, hein, puisque j'ai remarqué dans les. À partir du moment où il y a le. Un moyen de transport nouveau qui apparaît au début du XXe siècle, le tramway, hein, comme on l'appelait, entre Isigny et Balleroy, et qui va ensuite vers Saint-Martin-des-Besaces, eh bien, c'est un argument hein, pour utiliser ce moyen de transport que d'arrêter à Balleroy et pour visiter la forêt, pour se promener en forêt. Ouais. Hein, donc ça, c'est déjà, on le voit,
ça faisait des étincelles dans la forêt.
Oui, il y a même une partie qui prend feu hein, à cause du tramway. Il y a un procès d'ailleurs. Mais on incite les voyageurs les gens de Balleroy, on les incite à aller vers le rivage, vers la plage, et on invite les riverains à venir vers l'intérieur, vers la forêt. Et puis on y campe également, parce qu'on campe dans la forêt de Cerisy. Il y a des camps scouts, hein, notamment, qui s'arrêtent tous les ans dans la forêt et qui campent dans cette forêt. Il y a même des cartes postales qui ont été faites à ce moment-là, année 1930.
Et donc, pour arriver à nos jours, peut-être pour Benjamin, on a encore ces promeneurs, on a aussi les sylviculteurs. Et puis, qui d'autre et comment ça se passe aujourd'hui? Alors, même si là, c'est la Sarthe, mais bon, allez, on va faire comme si.
C'est, bon, de toute manière, entre la Sarthe, l'Orne, il y a pas mal de ressemblances en termes de forêt. Ce qu'on retrouve d'autre aussi, bah, c'est les chasseurs qu'on trouve comme un grand acteur de la forêt en général. Je dirais même le deuxième grand acteur avec les sylviculteurs. Il y a dans les acteurs de la forêt, il y a aussi toutes les entreprises de travaux forestiers bah, que représente Fibois, les ETF. Et du coup, toutes les populations qui l'utilisent aussi, enfin, qui utilisent la forêt. Comme ça a été dit avant, pour un usage purement récréatif, de plus en plus sportif aussi. Le sport en forêt se démocratise énormément. Il y a des exemples, il y a les exemples connus comme le trail, le VTT, mais il y a aussi des parcours qui sont installés ou dans des forêts périurbaines, des parcours de santé ou la forêt des couves dans l'Orne. Et entre ces usagers, forcément, il y a quelques étincelles qui peuvent apparaître. Je pense que les sylviculteurs et les chasseurs savent bien ici qu'il y a pas mal de conflits, de très gros conflits, même à l'échelle nationale, entre les deux lobbies, pas au sens négatif, mais entre les deux lobbies que sont le CNPF et la Fédération de chasse. Il y a aussi pas mal d'étincelles entre les néo-ruraux, donc les gens qui sont nouvellement installés à la campagne, et les gestionnaires de la forêt, qu'ils soient sylviculteurs ou chasseurs d'ailleurs. Et c'est quelque chose, comme l'a dit Vincent, qui a paru assez récemment. L'OFB en fait état depuis à peu près 10 ans d'une augmentation des plaintes.
L'Office français de la biodiversité.
Oui, excusez-moi. L'Office français du coup, de la biodiversité en fait état depuis 10 ans d'une augmentation du nombre de plaintes par des gens qui, pour des questions d'abattage qui sont tout à fait normales, qui ont été planifiées avant ou pour des problèmes de chasse. Notamment les problèmes de bruit, de nuisance dus au bruit. Et il y a quelque chose aussi qui apparaît de plus en plus dans la forêt, c'est les conflits autour des grands aménagements. Donc ça va être les carrières, les éoliennes surtout, qui prêtent à des gros conflits entre les populations locales et les aménageurs. Quels que soient les aménageurs d'ailleurs, que ce soit les collectivités, ou du coup un aménageur public ou un aménageur privé. C'est des choses qui cristallisent beaucoup de tensions autour de la forêt après avoir concerné plutôt les milieux agricoles.
Et donc ça, pour vous, ce que vous avez vu dans la Sarthe, c'est on peut l'étendre évidemment à ce qui se passe en Normandie ou à ce qui peut se passer en Normandie aujourd'hui.
C'est ça. Enfin, ça dépend du type de conflit, mais sur les conflits très localisés, c'est pas dépendant du département ou quoi que ce soit. C'est des choses qu'on retrouvera... Je pense qu'on retrouvera dans n'importe quelle autre forêt pour des conflits un peu d'échelle un peu plus grande. Là, c'est peut-être un peu moins facile de les généraliser et de pouvoir comparer du coup la Sarthe à la Normandie. Mais sur des conflits comme les conflits d'aménagement ou même les conflits de chasse, c'est quelque chose oui, qu'on retrouve dans toutes les forêts.
Donc on parlait de ces conflits. Ce que j'ai cru remarquer, c'est qu'on avait en fait une redescente de conflits nationaux. Je m'explique. C'est ça un peu l'effet des réseaux sociaux, enfin des médias en général, c'est qu'on va faire un focus sur la forêt. Et perché au-dessus de cette forêt, on va faire état de tout un tas de considérations idéologiques. Et puis ensuite, ça va redescendre au niveau local et on va essayer de transférer le conflit chasse ou le conflit paysage ou le conflit couperasse du Morvan, par exemple, en Normandie. Voilà. C'est une image nationale ou un problème en France quelque part qui remonte au niveau national et hop, on arrive en Normandie. Et on voit quelques hectares où on voit une première manifestation et hop, c'est parti. Ça va très, 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 très vite parce qu'on oublie malheureusement qu'on appartient à un territoire et il peut y avoir des conflits violents hein, de chasse dans certaines régions de France et ne pas y en avoir en Normandie comme on peut avoir des conflits en Normandie autour de la forêt qu'on ne va pas retrouver dans d'autres régions. Ça, c'est le problème, et c'est moi, je pour ça que je Fibois est un organisme régional. Moi, je plaide vraiment pour que ces questions de conflits d'usage se traitent localement. On peut pas. La forêt française est extrêmement diversifiée. Vous imaginez bien qu'entre le maquis ou la garrigue du sud de la France et les forêts, les hautes futaies du centre de la France ou les forêts de bord de mer qu'on a dans le haut de la Manche, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas les mêmes forêts, ce ne sont pas les mêmes milieux. Enfin, ce ne sont pas les mêmes populations non plus. Entre les forêts périurbaines ou les forêts qui sont... qui sont à côté des villages, dans la campagne, où on a toujours vu de mémoire d'homme les forêts exploitées, les choses comme ça, mais vous n'avez pas du tout les mêmes conflits. Donc il faut qu'on arrive à ce qu'il y ait une animation territoriale. Et je pense que le bon niveau, bien sûr, c'est la région, et je pense que le bon niveau, après, c'est la commune. C'est la commune, ce sont les élus. Alors il y a un travail qui est en train d'être fait. Vous avez la Fédération nationale des communes forestières. Je ne sais pas si vous... Non, il n'y a pas de gens de la FNCOFOR ou de l'URCOFOR ce soir. Voilà, ou l'Union régionale des communes forestières qui vient fédérer un petit peu cet intérêt des élus pour la forêt. Parce qu'on n'échange tellement pas... Qu'on ne sait pas qu'un élu, un maire, sur une forêt privée, par exemple, a finalement très peu de leviers. Il peut faire un plan local d'urbanisme, anciennement plan d'occupation des sols, vous avez tous entendu peut-être ce mot-là. Eh ben non, la forêt, c'est une réglementation nationale. Donc le plan local d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols ne va pas pouvoir agir sur la forêt, même si c'est le paysage qui entoure toute la commune. Donc forcément, quand il y a une coupe, que le maire, peu importe, fait son boulot d'élu, c'est-à-dire qu'on l'interpelle, il pose des questions, et pourquoi vous faites cette coupe-là, etc. Il va regarder ses outils réglementaires, et là, il découvre que... Oh, il peut rien faire. Donc, ben forcément, comme il peut pas répondre à ses concitoyens, il y a une interrogation qui vient se porter sur le forestier, et là, il faut redétricoter, vraiment informer... À chaque fois qu'un petit incendie s'allume dans un coin, vous parliez de d'activisme, sans parler d'activisme, parce que finalement les faits activistes au sens où on les entend aujourd'hui, hein, donc conflits assez durs quand même, voire avec des oppositions physiques, ils sont chez nous rarissimes, voilà. Moi, j'en ai juste eu un où on m'a demandé ce que je mettais ces petits filets qu'on voit pour protéger les arbres des chevreuils. Voilà, j'ai un type qui s'arrête, qui me dit pas bonjour, rien du tout. Il me dit, ça vous sert à quoi de mettre des filets en plastique? Je lui dis, ça vous sert à quoi de faire du vélo? Mais au bout d'un moment, il faut savoir simplement se dire bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Pourquoi est-ce qu'il y a des filets en plastique autour des arbres? Parce qu'il y a des chevreuils. Voilà. Alors, soit on tue tous les chevreuils et j'enlève mes filets en plastique. Voilà. Voilà. Il faut qu'on apprenne à se parler. C'est là l'enjeu. C'est là l'enjeu. C'est vraiment en termes d'activisme, choses comme ça. C'est sûr, si on se parle pas, ça va continuer à se polariser, ça va continuer à s'exciter. Ça va devenir aussi un sujet éminemment politique. C'est en train de le devenir. Voilà. Et à ce moment-là, il n'y a rien de pire. Quand le politique national attrape le sujet, aujourd'hui, ce n'est pas forcément rassurant. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une animation. Fibois est là pour ça. Il faut qu'il y ait une animation territoriale vraiment forte. Et en même temps, il faut qu'on soit honnête avec vous. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez poser vos questions, nous engueuler aussi un petit peu. Ça peut arriver. Et il faut que nous, on s'organise pour vous répondre. Il faut qu'on réfléchisse aussi à nos pratiques. Il faut que le secteur de la recherche vienne aussi un peu voir ce qu'on fait, etc. C'est la forêt devient un intérêt. Voilà. Moi, je pense que c'est normal qu'au moment où elle devient un intérêt, il y a une frange un peu, effectivement, revendicatrice ou activiste qui s'exprime. Ça fait partie du jeu.
Le problème, c'est peut-être... je ne vais pas parler d'incompétence. Moi, je ne suis pas compétente sur la taille d'un arbre. Mais c'est plutôt la méconnaissance, finalement, que tout le monde a. Et je ne suis pas sûre que là... effectivement, on parle toujours des réseaux sociaux. Des fois, il peut y avoir des bonnes choses. Pour des peuples qui veulent se libérer, on sait que c'est très bien. Mais des fois, c'est vraiment catastrophique, quoi. C'est fou le nombre de bêtises qu'on peut lire. Et en fait, le problème, c'est que chacun connaît tout. Vous avez vu, à l'époque du Covid, tout le monde était médecin subitement, d'un coup. Donc tout le monde est forestier, tout le monde est historien, tout le monde est géographe. Et ça pose, c'est vrai que c'est un problème. Ça veut dire que le problème, c'est la place du discours scientifique dans notre société. Ça, c'est un très, très gros problème. On va préférer ne pas faire confiance. On va préférer faire confiance aux rebouteux. Finalement, c'est peut-être un relent, je ne sais pas, médiéval, j'en sais rien, plutôt qu'aux médecins. Et ça, c'est presque inquiétant. Donc, je pense que oui, il faut qu'on... Bien sûr, il faut se parler, mais il faut aussi qu'on revoie la place du discours scientifique. Ce n'est pas seulement sur la forêt, le problème. C'est un problème de société qui est bien dû à cet Internet qui diffuse à la fois des choses merveilleuses. On va trouver des choses merveilleuses scientifiques, d'ailleurs, et puis n'importe quoi. Alors, du coup, tout le monde a une idée sur tout. Et là, c'est assez terrible. Et malheureusement, on préfère aller vers les idées les plus faciles. Et je reviens aux élus. Et malheureusement aussi, parfois, les élus autour de notre forêt, ils n'ont pas toujours le bon discours. Parce que finalement, ils n'y connaissent rien. C'est pas parce qu'on est élu qu'on connaît. Il y a des élus ici qui sont là, ou d'anciens élus. Et en fait, l'intérêt de l'élu, c'est d'aller chercher les spécialistes. Mais c'est pas de s'ériger « j'ai été élu, je suis Superman, donc je connais tout ». Mais non, ça c'est stupide. Donc il faut absolument qu'on revienne, qu'on se pose des questions. Voilà, la place du scientifique, mais aussi qu'est-ce qu'on élit. Un élu, il n'est pas scientifique. Donc en fait, c'est à lui d'aller chercher. Et évidemment, il va tendance à aller dans le sens populaire. J'ose pas dire le mot qui fâche tout le monde, populiste. Parce que peut-être qu'il prépare déjà ses élections. Enfin, je ne sais pas, mais justement, l'élu, il a un rôle extrêmement important. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, mais il ne faut pas oublier qu'il représente la République française. Alors, on dit pas n'importe quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas assez dans la salle, parce que là, sinon, je vais m'énerver. Alors, et moi, j'ai entendu tellement de bêtises de la part de maires. Nous, on a un maire qui revendique « on m'a volé ma forêt », parce que sous prétexte, qu'il est dommage qu'il ne soit pas là. On a lancé pourtant l'invitation sur le territoire, comme par hasard. Il n'y a pas un élu du territoire autour de la forêt qui va être là. De Cerisy. Surtout pas. On va éviter d'en connaître. La connaissance fait peur. Mais c'est terrible qu'on soit, on arrive là en France quand même. Si la connaissance fait peur, c'est quand même inquiétant. Voilà.
Alors, voilà. C'est dit pour les élus qui sont présents. élus et anciens élus, parce que je sais que vous êtes quelques-uns. Alors, le moment est venu de conclure. Donc, si vous voulez, je vais vous relaisser la parole pour un bref mot, chacun d'entre vous. Et puis ensuite, comme ça, on pourra sans doute avoir... Je suis sûre que vous avez plein de questions. On aura encore quelques minutes pour les questions.
On fait... Je lance un mot. Merci à messieurs d'aller chercher les bouteilles de cidre. Voilà. Elles sont au frais. Donc, Michel et Antoine. C'est Antoine ?
Oui.
Voilà. Excusez-moi. Ça va être enregistré, ce que j'ai dit, c'est pas grave. On commence peut-être Benjamin.
Benjamin, je vous laisse le premier mot de conclusion.
Pour conclure, ce que je peux dire, c'est que ce qui est ressorti de mon travail, c'est qu'il y a un énorme travail à faire de la part de tous les acteurs du monde forestier sur la médiation auprès des populations et sur l'intervention dans la sensibilisation des populations sur la gestion de la forêt et le monde forestier en général.
Alors, moi, je voudrais aborder trois petites choses qu'on n'a pas évoquées jusqu'à présent. C'est qu'on entend aujourd'hui parler de la forêt comme un monument naturel. Alors ça revient régulièrement, c'est pas nouveau, hein, c'est la première fois qu'un géographe l'a utilisé, c'était en 1955, c'était Lucien Turc. Il parlait déjà de monuments naturels. Et derrière l'expression, qui a sans doute pris encore en force hein, durant ces dernières décennies, il y a sans doute plein de nouvelles considérations qui sont prises en compte aujourd'hui dans ceux qui travaillent sur la forêt. C'est notamment la notion de bien commun. Hein, certains aujourd'hui, hein, c'est peut-être que vous appelez des activistes, hein, peut-être, évoquent la forêt comme un bien commun. L'idée étant que sa gestion, son importance est tellement forte aujourd'hui, hein, du point de vue du stockage de CO2, de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, etc., que cette forêt, la forêt ne peut plus être gérée uniquement par des propriétaires privés ou des propriétaires publics, etc. Et que, enfin, en tout cas, à côté de la propriété, enfin, en tout cas, de la question de l'appropriation de la forêt doit être réexaminée. Ça veut dire qu'étant donné que l'importance des services écosystémiques qui fournis par cette forêt, eh bien, la notion de propriété privée doit laisser la place à celle du bien commun qui dépasse le seul droit de propriété pour aller vers un droit d'usage. C'est la notion qui est développée par ceux qui prônent cette nouvelle façon de voir les choses. Derrière, l'idée, c'est que les enjeux autour de la forêt sont tellement importants, tellement forts, que sa gestion ne peut plus être confiée uniquement à des gestionnaires privés, propriétaires privés ou publics, et que les il faut aller au-delà des considérations économiques, hein, pour que la forêt ne soit pas vue seulement comme un gisement de bois, mais qu'elle doit laisser la place à d'autres composantes hein, de l'écosystème forestier, comme on dit. Alors, comme c'est aujourd'hui la Journée internationale de la forêt, je suis allé voir dans un ouvrage qui est paru il y a quelques années, qui parlait de toutes les forêts dans le monde. Et on avait dit qu'on finissait cette soirée par la question de la multifonctionnalité de la forêt. Et je suis allé voir dans le cas qui s'est passé en Suisse, et où deux tiers de la forêt est publique. C'est une considération un peu différente de ce qui se passe en France. Et dans cet article, hein, paru en 2010, eh bien, qui s'intitulait « La multifonctionnalité en crise, l'exemple de la politique forestière suisse », eh bien, dans cet article, les auteurs montrent que il est difficile de garantir à la fois la multifonctionnalité des forêts et des performances économiques dans la compétition économique globale mondialisée. Et donc, ce qui explique que la Suisse a laissé tomber la question de la multifonctionnalité de la forêt et est revenue sur une politique de zonage des fonctions forestières. Donc, ça veut dire que, en fonction des contextes, évidemment, il y a des politiques qui sont prises. Et comme on le disait tout à l'heure, la question de la forêt, ce n'est pas tout à fait la même question que, par exemple, l'agriculture. C'est que quand on engage une politique, on s'engage sur des dizaines, voire des centaines, pas des dizaines, c'est sûr, des centaines d'années. Et ça, c'est une vraie question qui est quand même encore plus difficile à résoudre, peut-être, à aborder, que la gestion des espaces agricoles proprement dit.
Alors, il y a beaucoup de questions. Cette question du bien commun ou de la légitimité du reste de la population à venir exercer un droit de regard sur la gestion forestière, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, comme je vous disais, la dernière loi forestière, grande loi forestière date de 2001, ça veut dire qu'un Parlement se penche sur la question, ça veut dire que des gens réfléchissent, ça veut dire que des... On dit aujourd'hui les lobbies, mais ça veut dire que des intérêts s'expriment et viennent peser sur l'élu. Voilà. Et ça nous ressort sous forme de loi. Ça s'appelle la démocratie. Cette notion, elle est extrêmement importante parce que je crois qu'aujourd'hui, bon nombre de citoyens ont effectivement dans les réseaux sociaux, ça me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, on n'a jamais eu autant d'abstention aux élections et autant d'expressions dans les réseaux sociaux. C'est assez étonnant. Mais, donc voilà, je crois qu'on a un déficit d'expression démocratique sur la forêt, que ce soit à petit niveau, on y participe à notre manière ce soir, mais ce déficit, il forge l'incompréhension, peut-être plus tard l'affrontement, en se basant sur des grandes idées, dont cette notion de bien commun. Bien commun, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit? Effectivement, les espèces, le contenu de la forêt, l'air que l'on respire, auquel elles participent, qu'on les considère comme des biens communs, parce qu'une forêt n'a pas de frontières à proprement parler. Les frontières, c'est celles que l'homme lui-même a propriété, s'arrête là, à la borne. Mais le scarabée, le chevreuil, le sanglier, le piaf franchissent cette frontière dans tous les sens, tous les jours. Ils appartiennent à personne. Il faut savoir que le gibier est res nullius, si je ne sais pas depuis combien de temps, mais il n'appartient à personne, par exemple. Les arbres, eux, sont fixes. Donc le chêne, d'un côté de la frontière, appartient à un propriétaire. De l'autre côté de la frontière, il appartient à un propriétaire. Mais il y a l'État au-dessus. Il y a l'État au-dessus. Vous ne pouvez pas couper ce chêne comme vous voulez, quand vous voulez. C'est faux. C'est archi faux. Aujourd'hui, vous avez des réglementations lourdes là-dessus. Ces réglementations évoluent. Elles évoluent avec la société. On a un document. Je vous en parle ce soir. Il va arriver, je pense, au stade de l'enquête publique ou de l'avis d'autorité environnementale, je ne sais plus, qui s'appelle le schéma régional de gestion sylvicole. C'est notre Bible. Voilà. C'est le document auquel... auxquels doivent être conformes tous les autres documents de gestion de forêt privée de 4 à 1000 hectares, 2000 hectares. Ce document, il prévoit par exemple des superficies en libre évolution. C'est une révolution pour les forestiers, ça. Laisser la nature faire un endroit, c'est une révolution. On ne sait pas ce qu'on va obtenir. Ce qui nous fait peur, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, d'accord, faisons ce progrès, notamment dans le cadre de ces problèmes de changement climatique, de laisser la forêt s'adapter, évoluer toute seule. C'est extrêmement intéressant. Je pense qu'un biologiste sera super intéressé, et moi aussi, de voir comment la forêt se débrouille toute seule. À longue échéance, faut que ça soit assez long comme processus pour être véritablement intéressant. Mais si on fait ça à côté d'un village... Cette forêt en libre évolution, les arbres vont se casser la figure, etc. Un coup de sécheresse, un incendie, qu'est-ce qu'on va nous dire? Vous avez laissé cet espace en libre évolution, vous l'avez décidé, maintenant ça a cramé, etc. Ah oui, bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si le promeneur se balade dans cette forêt privée, ce que le propriétaire tolère, beaucoup de propriétaires tolèrent qu'on aille dans la forêt, enfin, c'est rare que vous ayez un type, un cerbère à l'entrée du bois qui vous foute dehors quand vous y rentrez, pour peu que vous ayez un comportement correct. Bon. Bah, ce promeneur, aujourd'hui, s'il se casse la figure dans la parcelle parce qu'il s'est pris les pieds dans les branches qu'on a laissées de libre évolution, il faut savoir que c'est la responsabilité civile du propriétaire. Un détail. Un détail. Mais si le type se pète une patte, si personne ne le retrouve, voilà, on va dire, mais monsieur, vous avez dans votre forêt quelqu'un qui est venu, bah, c'est la responsabilité civile du propriétaire des lieux qui s'exerce. Donc vous voyez que derrière le bien commun, etc., des notions idéologiques, se posent tout un tas de petites notions. Je ne vais pas vous en dresser la liste par le menu parce que liste à la Prévert.
Ça va être un petit peu long.
Je vais essayer de... J'ai compris le message. mais ça pose tout un tas de questions du quotidien, du détail. C'est extrêmement important. Mais le message est que non, la forêt privée, comme la forêt publique d'ailleurs, ne se gère pas de l'initiative seule des propriétaires ou des gestionnaires privés. Il y a une réglementation relativement serrée qui encadre tout ça. Si on veut démocratiquement que ça évolue, j'en termine, mais il faut se rendre aux urnes, il faut que la démocratie, que le débat ait lieu.
Merci Vincent pour cette brève conclusion. Donc je vais faire très très bref. Alors moi, vous l'aurez compris, il faut absolument impulser une dimension historique dans la connaissance de la forêt. Je trouve très important qu'on initie, pourquoi pas, des cours, ou pas des cours, je trouve que c'est pas le bon mot, en tout cas qu'on diffuse des connaissances historiques, en particulier pour mesdames et messieurs les élus, les maires autour des forêts. Hein. Ça commence par eux, je pense, c'est important. Et le public, on le fait, on l'a initié, nous, du côté de Balleroy. On a eu des conférences jusqu'à une centaine de personnes. On va continuer avec la Maison de la Forêt. Hein, mais ça serait quelque chose à impulser sur le territoire du Calvados, madame la conseillère départementale. Et je finis sur une note poétique. C'est le printemps aujourd'hui. Les arbres bourgeonnent et la belette va sortir bientôt. Et c'est bientôt l'heure de prendre un pot.
Alors, moi, je vais juste conclure en présentant rapidement votre ouvrage du pôle rural qui va sortir à l'été. Voilà. Donc, tout est dit derrière moi. Et on a quelques minutes pour prendre des questions. Donc, n'hésitez pas. Il y en a une.
C'est plus une suggestion qu'une question. Parce qu'en fait, on voit bien que demain, le problème majeur pour la forêt, ça va être les conflits d'usage. On est de plus en plus nombreux à vouloir utiliser la forêt. On pense qu'on a beaucoup plus de droits que de devoirs. On est chez soi quand on est en forêt. Et il n'est pas question qu'on vienne nous dire « Vous n'avez pas le droit de faire ci ou vous n'avez pas le droit de faire ça ». Donc je pense qu'il y a un problème d'éducation à la base et donc forcément de formation. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait envisager de faire remonter aux instances nationales, à l'éducation nationale, qu'on diligenterait à nos jeunes à partir de l'école primaire et après peut-être un peu plus au collège, etc., faire passer les bons messages. Je pense qu'on aura beaucoup plus de prise sur la jeunesse que sur les adultes qui ont déjà, qui pensent déjà tout savoir sur tout. Hein? Donc c'est simplement une suggestion. Je ne sais pas si Fibois peut avoir une démarche dans ce sens-là, mais si on ne commence pas à travailler avec la jeunesse, ça va être très difficile.
Est-ce que, en tant qu'historienne de la forêt, est-ce que on a une idée de la date à laquelle les dernières forêts primaires ont disparu en France ? Est-ce que les documents dont on dispose peuvent nous aider à répondre à cette question ?
Non, mais là, c'est beaucoup trop vieux pour moi. C'est vraiment trop vieux pour moi. Là, je ne sais pas. Je suis désolée. Je préfère vous avouer que je ne sais pas plutôt que d'aller inventer quelque chose d'extraordinaire et de faire croire que je sais. Donc, je ne sais pas.
Bonsoir. Je suis un petit peu à l'Urcofort, donc représentant des communes. Et j'ai une observation à faire, c'est que les relations concernant la forêt sont devenues essentiellement émotives, au sens le plus exacerbé, etc. Faut-il effectivement prendre, soit répondre de façon cartésienne, en répondant effectivement, comme disait monsieur, à une formation, ou alors dire effectivement, nous rendons des services insignes à la société, on va manger le CO2, on va réguler effectivement les températures. Pour cela, peut-être faut-il effectivement assouplir ou avantager un petit peu la fiscalité forestière que nous représentons pour les 70% des forêts françaises.
Deuxième suggestion, je note.
C'est vous qui me dites si on répond maintenant ou globalement après.
Allez-y.
Oui, alors on appelle ça le financement des services écosystémiques. C'est bien ça. Donc alors moi, je plaide effectivement pour qu'on finance ces services environnementaux. Alors il y a des choses qui sont faites au travers des crédits carbone. Enfin, c'est assez balbutiant, mais je plaide pour qu'on ait les mêmes avantages. Un peu les mêmes avantages si l'on produit ou si l'on protège, que l'on produise ou que l'on protège, ou que l'on fasse les deux, ce qui serait encore mieux. J'ai peur, pour ma part, de ce qu'on va me demander en échange. Voilà. À partir du moment qu'il paye commande, on m'a toujours dit ça. Donc le débat existe chez nous, effectivement, qu'on ait une rétribution indirecte fiscale pour ces choses-là. Je pense que oui, en tout cas, pour les superficies que l'on choisit de protéger ou pour les charges particulières qu'on a à protéger à certains milieux qui sont très peu productifs. Hein. La forêt, c'est quand même l'usage par défaut. Hein, si vous abandonnez un milieu, il poussera de la forêt. Voilà. Donc on a quand même des forêts qui produisent très, 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 très peu, qui ont par contre de hautes qualités biologiques, hein, et forêts de landes, des choses comme ça, des formations de landes boisées. Moi, je suis, oui, mais en tout cas, avec une prudence quand même sur cette rémunération, parce qu'on ne sait pas quelle est véritablement sa contrepartie aujourd'hui.
Mais je pense que la question a traversé l'agriculture entre les fonctions marchandes et les fonctions non marchandes assurées par l'agriculture. C'est la même chose pour la forêt. La forêt produit des richesses matérielles, le bois, et elle produit des richesses immatérielles. C'est les bienfaits, hein, jusqu'à la sylvothérapie, hein, on n'en a pas parlé, mais on pourra en parler. Et alors, comment faire perdurer cette double production de richesses ? C'est bien là la question. Et comment rémunérer cette richesse à la fois immatérielle et cette richesse matérielle ? On est bien dans le débat, c'est toute la difficulté. Pas facile à résoudre.
Bien.
Ça fonctionne.
Je suis forestier, propriétaire forestier et forestier de métier. Je voudrais revenir au titre de cette réunion, qui était d'abord historique. Je suis un peu étonné qu'on n'ait pas parlé du dernier conflit et de l'influence de l'occupant et des besoins de la population pendant la dernière guerre. Parce que ce conflit a influé de façon très déterminante sur... Ah bon, parfait, merci. Ce conflit a été déterminant sur la forme et sur le contenu de nos forêts d'aujourd'hui. Autre question que je voulais vous poser, je suis aussi un petit peu étonné qu'on n'ait pas parlé de la balance qu'il y a eu au cours des âges entre la population française et la surface des forêts. Quand il y avait beaucoup de population, la surface de la forêt a diminué jusqu'à descendre à son plus bas aux environs de Napoléon, je dirais, pour simplifier pour tout le monde. Et puis, depuis la saignée napoléonienne, la surface de forêt a considérablement augmenté. Autre fait historique qui, me semble, a été passé sous silence, c'est le charbon, l'avènement du charbon, qui a aussi, et encore le plus récemment, l'usage des hydrocarbures, qui a laissé tomber une grande partie des besoins de la forêt, des besoins de la population, et qui a aussi influé sur l'évolution de la structure de nos peuplements. Voilà, je pense que ça, ce sont des points qui sont très très importants pour l'image que l'on a aujourd'hui de la forêt. Je passe la sylviculture.
Pour juste les questions et d'histoire, ne vous étonnez pas, on ne peut pas parler de toute l'histoire, de 1000 ans d'histoire en une soirée, c'est pas possible. Et puis il n'y a pas tous les spécialistes des périodes historiques. Moi, je suis plutôt sur la période médiévale, un collègue ici plutôt sur la période de l'Ancien Régime. Après, l'histoire sur 1000 ans demande déjà même des séquençages et des spécialistes à chaque fois. Donc c'est pour ça. Et puis, même dans notre ouvrage, on n'a pas forcément parlé de la Seconde Guerre mondiale, parce que ce qui nous gêne toujours à la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on finit toujours par dériver. On dérive tout le temps sur autre chose que la forêt. Alors, vous avez raison, par contre, de le rappeler. Et sur la forêt de cerisier, ça a beaucoup joué, puisqu'en fait, effectivement, elle a été bien bombardée et replantée, évidemment, résineux. Voilà. Et ça a changé, vous avez tout à fait raison, l'image de la forêt à ce moment-là. Il n'y avait pas le choix, il fallait une essence qui pousse vite. Donc, effectivement, il y a un carrefour des pins. Bon, maintenant, il n'y a plus de pins hein, depuis ce temps-là. Mais effectivement, pour ceux qui connaissent l'embranchement, hein, le carrefour de l'embranchement, le premier rond-point a été fait, on l'appelait le carrefour de la Victoire. Il y a eu des recherches très intéressantes qui ont été menées par la Maison de la Forêt, dont la responsable Aurélie est dans la salle. Il faudra aussi en parler. C'était un désastre, vous avez tout à fait raison. Hein, les forêts, en tout cas cette forêt-là et d'autres, hein, ont été très touchées lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc il a fallu replanter et il fallait que ça pousse vite. Et donc effectivement, ça a changé, vous avez raison, la physionomie des forêts. Voilà, pour répondre. Alors voilà, là, il nous faudrait d'autres spécialistes hein, sur cette période. Mais c'est une période encore à creuser. On a une collègue qui travaille aussi sur, par exemple, des carnets de garde hein, forestiers. On a la chance d'en avoir 35, rien que sur la forêt de Cerisy, 35-40. Et elle lit, voilà. Et là, elle trouve des choses assez inédites hein, sur la période de la Seconde Guerre mondiale. C'est très intéressant. Donc, on va continuer hein, à travailler. On n'a pas traité de toutes les périodes hein, sur notre forêt, parce qu'on ne pouvait pas traiter de toutes les périodes. Hein, donc, mais on va continuer. Je vous ai dit que l'idée, c'est de faire une biographie au moins d'une forêt, une forêt normande qui est la forêt de Cerisy, certes, mais elle est représentative des forêts de l'Ouest, hein, de la France. On peut dire qu'il y a, un modèle hein, de forêt sur l'Ouest de la France et ça colle bien entre même la Sarthe et la Normandie. Voilà. Et pour les autres questions, si vous voulez.
Il faudra refaire une autre soirée. Et donc il y a encore moins, je crois, d'historiens du contemporain qui s'intéressent à la forêt que de géographes. Oui. Et par contre, il y a une géographe qui, on l'a citée tout à l'heure en début de séance, qui s'appelle Arlette Laplace de Londres, qui a commencé une thèse, qui a travaillé pendant plusieurs années, mais qui ne l'a jamais soutenue. Et peut-être qu'elle va nous donner bientôt les travaux qu'elle avait faits et qui n'ont jamais été soutenus. Donc,
je pense
que ça comprend cette période de l'ensemble du XXe siècle.
Alors,
sur la forêt de cerisier.
Je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a une déficience sur la forêt contemporaine, finalement, dans l'histoire contemporaine. 19e et début 20e, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il y a tout à faire. Imaginez, on part de rien sur notre forêt. Et on a beaucoup à faire. Alors, c'est vrai que le Moyen-Âge a presque... C'est marrant parce que c'est souvent comme ça. Les périodes les plus lointaines ont peut-être été les plus étudiées. Et puis finalement, l'Ancien Régime, et vous arrivez au 19e, et tout d'un coup, on n'a plus rien. On n'a rien sur le 19e siècle, quasiment sur nos forêts. Donc voilà l'objet d'un futur, encore une future table ronde prochainement.
Oui, bonsoir. Vous avez évoqué la difficulté de définir ce qu'est la forêt, et notamment en posant cette question... comment considérer les plantations de haies? Est-ce que c'est forêt ou... Et donc ma question porte sur le mouvement actuel des micro-forêts, donc qui est en train de se développer, aussi bien au niveau des villes que des campagnes. Comment est-ce que vous situez ce mouvement-là actuel?
Alors, je le situe à son échelle. C'est-à-dire micro. Et le problème, sans critiquer la démarche, moi je trouve que cette démarche, elle est intéressante dans le sens où les gens essayent de s'approprier quelque chose. Même si aujourd'hui, à titre technique, je veux dire qu'il y a un peu de maladresse pour parler de forêt, il faut quand même qu'on ait une superficie suffisante pour que tous les arbres puissent exprimer leur interaction. Vous avez des essences de lumière, vous avez des essences d'ombre, vous avez tout un tas de dynamiques biologiques qui ont besoin d'une surface pour s'exprimer. Donc si on essaye de faire ça en micro-surface, on aura des résultats, mais au bout d'un moment, si vous mettez un hêtre dans le milieu de votre forêt Miyazaki, c'est ça? Voilà.
Juste, j'avais une question. Dans les lettres, Miyazaki, c'est
Non. Voilà. Donc dans ces micro-forêts, si vous mettez un hêtre dans le milieu, à terme, il va manger tout le monde. Voilà. C'est une essence qui pousse au départ sous les autres, et quand elle est passée par-dessus, elle mange tout le spectre lumineux, et donc le dessous, il n'y a plus rien. Voilà. Donc c'est important si cette micro-forêt, dans cette micro-forêt, on arrive à trouver, à avoir même ce résultat-là. Pourquoi ce hêtre? On avait planté 50 arbres là-dedans. Il y en a eu des fois pour un petit paquet de sous, parce que des fois, un peu de business quand même là-dessus. Et finalement, à la fin, il reste un arbre. Pourquoi? Et c'est ça qui est intéressant. Alors, si les gens se posent la question au travers de micro-expériences, oui, du moment que ça ne devient pas un peu trop business, quoi. Voilà.
Je vous propose de poursuivre autour d'un verre. Merci beaucoup à tous les quatre.